Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite de mon gorgon.
Ça veut dire qu'on est piégé, 5 à pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va. J'ai un peu faim, j'avoue. Et bonjour Damien, comment ça va?
Ça va, je me suis fait vacciner hier, je suis en pleine forme.
Hier?
En pleine forme,
Nous, on s'est fait vacciner
vendredi
et on a passé un mauvais week-end.
J'ai passé un samedi en PLS.
Enfin,
mais moi, j'ai eu un peu mal au bras hier et cette nuit, et là, je pourrais nager.
Moi, j'ai même pas eu mal au bras cette fois-ci. J'étais trop bien, ça allait. Et
en
puis,
fait, t'as pas piqué.
Bah, j'ai eu la même réflexion et après, je me suis mis à avoir envie de vomir. Donc, je me suis dit, bon, si elle a dû me piquer. Quoi.
Moi, j'ai eu mal au bras, j'étais pas bien. Et...
Un enfant de 3 ans.
Comment tu juges?
Heureusement, il est pas souvent malade.
Eh bien, le mois dernier, je vous disais que le mois de juin était était le mois que je préférais dans l'année. Parce que c'est le mois qui sent l'été, où les jours se rallongent, où il fait beau et il fait chaud. Et... Enfin, pas cette année, quoi. Heureusement, on a pu compter sur les plateformes qui nous ont offert quelques trucs dont on va vous parler dans cet épisode. On va commencer par Ted Lasso, une série qui parle de foot. On va parler aussi de Sweet Tooth, une série avec des enfants chevreuils. Et enfin... on parlera aussi de Luca, le dernier film d'animation de Pixar. Mais avant de commencer, on va faire un petit peu d'actualité. Je te laisse, Mathilde, la parole, puisque c'est un sujet d'actualité que tu as choisi.
Ah bon? Ah oui. Oui, le mois dernier, on vous a parlé de Jupiter's Legacy, donc la série sur les super-héros qu'on avait vue. C'était une adaptation de comics de DC, il me semble. Et bah, la série a finalement été annulée, donc on en a parlé, on l'a vu, mais bye bye. Néanmoins, Netflix a annoncé... qu'ils allaient faire un spin-off, un faux spin-off, c'est un peu compliqué, ça se passe dans le même univers mais pas avec les mêmes persos si j'ai tout compris, et qui s'appellera Super Crocs.
C'est super Crocs, voilà. c'est des chaussures
ils sont pas super.
Non.
Du coup, bah pourquoi pas, on est toujours voilà, on sait pas, voilà.
Et par contre, c'est pas du tout d'ici. Il me semble bien que c'était pas un truc...
c'était pas DC, mais c'était un
Image Comics.
Désolé.
C'est un autre éditeur.
Moi, je vais vous parler de chronologie des médias. Je vais essayer d'être pas trop relou, mais je vais faire ça le plus rapidement possible. Actuellement, un film qui est sorti au cinéma ne peut arriver qu'au bout de 36 mois sur les plateformes. Et tout cela va changer. Et maintenant, il ne faudra patienter plus que 12 mois.
Mais est-ce que ça n'avait pas déjà changé avec le Covid?
Il y a eu une sorte de tolérance un peu avec le Covid, mais les textes législatifs imposaient 36 mois d'attente. Mais donc tout cela va changer, et en contrepartie, les plateformes devront alors verser 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dès lors qu'elles diffuseront un film dans un délai inférieur à 12 mois après sa sortie en salle en France. Le texte est assez compliqué, on pourra vous mettre le lien si vous voulez dans une description, un truc comme ça. Enfin, tout est trouvable sur le site du gouvernement Légifrance. Mais voilà, on peut s'en réjouir parce que évidemment plein d'argent comme ça, 25% des chiffres d'affaires, ça va aller au cinéma, à la création audiovisuelle, donc ça c'est bien, et puis en plus nous en tant que spectateurs, on aura moins à attendre. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Voilà. On peut passer au Hypito maintenant. Qu'en dites-vous?
Volontiers.
Mathilde, tu vas nous parler de séries Netflix dans ton Hypito.
Oui, il y a 2 mois, avril, il me semble. Peut-être mai, je ne sais plus. Non, je pense que c'est au mois d'avril. Shadow and Bones, la saison 1, faisait son apparition sur Netflix. Et je sais pas si vous, mais en tout cas, je suis super contente d'avoir appris qu'il y allait avoir une saison 2.
Bah, moi, j'ai pas fini la saison pour l'instant.
Donc voilà, bah, tu seras content d'apprendre qu'il y aurait une saison 2 dans laquelle. Il y aurait sûrement l'apparition de bah voilà, je ne sais plus, de Nicolai et de, je ne me rappelle plus du deuxième prénom.
Jean-François.
Je sais Nicolai parce que je suis en train de lire la saga qui le concerne et d'un autre personnage très cool, voilà. C'est pas grave.
Bah c'est bien, non mais moi je me réjouis qu'il y ait une saison 2 parce que on avait bien aimé et puis c'est bien quand des fois Netflix
Willan n'annule c'est pas Willan, les séries. Son prénom.
Et ben on retrouvera Willan un jour. On reste sur Netflix parce que Damien, tu as aussi un hypito chez Netflix.
Oui, c'est un film qui sort le 9 juillet qui avait pas l'air de devoir sortir sur Netflix au début, qui devait sortir
non,
dans les salles.
C'est ça.
Et qui s'appelle Comment je suis devenu un super-héros. C'est de Douglas Attal et il y a Pio Marmaille dedans et c'est d'autres acteurs et actrices.
Qui est Pio Marmaille?
Pio Marmaille, c'est un acteur français.
C'est pas une superstar en France, mais un acteur qui a une bonne réputation et puis qui
a un nom sympa.
Ouais, il a un nom amusant. Marmaille, c'est amusant, mais il a joué dans quoi?
Là, je pourrais pas te dire.
Ouais, moi comme ça là.
D'accord.
Mais je peux trouver assez vite.
Mais moi par contre du coup c'est un peu un dépito parce que je trouve ça dommage que un film comme ça sorte sur Netflix et pas au cinéma parce que c'est un film très ambitieux français et c'est dommage. C'est le premier film de super-héros français, enfin voilà, je trouve ça dommage et ça me tend une perche pour mon dépito du mois. C'est un peu dans la même veine que ce que je viens de dire, c'est j'ai découvert avec l'annonce du lancement du tournage de Hakuto-2, un film de Rian Johnson. On avait vu le premier au cinéma. Il y a un article sur le blog. Il y a Captain America, Chris Evans dedans, Daniel Craig, James Bond aussi. Enfin, c'était un film très, très, très bien. Donc, le 2 a commencé à être tourné. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il sortira sur Netflix. Mais pourquoi laisser les trucs bien au cinéma, bon sang?
Ouais, mais il paraît qu'il y a trop de films en attente, du coup, je pense que...
Il faut accélérer.
Mais là, il est pas en attente, parce que...
Oui, mais si, parce que... Ah, oui, mais même, il va arriver dans une file d'attente trop longue.
Oui, bah, écoutez, en attendant... Mais là, c'est même un autre problème, c'est que Netflix a racheté la licence, donc en fait, c'est...
Ah, ils sont les malins. Ouais, ils sont doués, c'était un très bon film, le premier, j'avais beaucoup aimé.
Bah oui, mais inventez vos trucs, au lieu de nous faire des séries pourries.
Après, ils inventent quand même pas mal.
Oui, Elite. Elite,
c'est
a tué Sarah.
C'est que des trucs qu'ils ont rachetés.
Et bon,
ils rachètent quand ça marche. C'est ça leur business.
Bah créer des trucs.
Mais créer des trucs bien, on va en parler après. Calmos et Shadow and Bones par exemple, c'était une créa, c'était très très bien.
Bon, il y avait quand même un livre à la base.
Oui, mais c'était quand même. Bah après, ils prennent pas mal d'adaptations. C'est vrai qu'ils sont bons là-dessus.
Oui, bon bah je suis chafouin. Écoute.
Arrête d'être chafouin. Passons à la suite.
Passons aux séries. Avant de commencer, je vous propose de faire un petit signalement, un truc qu'on fait jamais d'habitude, mais me dit que c'est pas mal de faire, c'est de dire que dans ce podcast, on spoil quand on parle des œuvres. Alors on raconte pas tout, mais on peut parfois.
On dit que la fin.
On peut des fois divulgâcher, comme il faut dire en bon français, certains trucs. Donc voilà.
Mais on doit le dire au début de la série quand on parle d'une série, on va dire tout doux doux doux.
Bah d'un côté, tu vas forcément un peu spoiler des trucs, donc je sais pas si ça vaut le coup de leur préciser à chaque fois.
Non, moi j'essaie de tout faire sans spoil.
Ok.
Presque.
Genre,
à part les sujets.
Rien.
À part les
tu
sujets.
Pas des personnages.
À part les sujets importants.
D'accord.
Tu peux oui, c'est
les
ça.
Genre les sujets du mois, quoi. Les sujets du mois et les sujets de chaque personne.
Je ne pensais pas lancer un débat avec ce trigger warning, mais bon, voilà.
Trigger warning, divulgaché. Il y a un.
Moi je suis un citoyen du monde, moi je parle français et anglais.
Ok.
Et je laisse la parole à Mathilde qui va nous parler d'une série Netflix.
Oui, en fait, c'est une série Netflix que j'ai vue le mois dernier et j'ai oublié d'en parler. Heureusement, parce que le podcast aurait été beaucoup trop long. Alors, c'est les, ça s'appelle The Irregular, donc les irréguliers de Baker Street en français. Il y a eu une saison qui est sortie avec 8 épisodes d'environ 50 minutes. C'était sur Netflix et c'est sorti cette année. Je ne sais plus le mois exact, mais cette année. Donc, la série s'inspire des histoires de Sherlock Holmes. C'est une version qui se déroule dans un Londres victorien où une bande de jeunes orphelins et un prince, parce qu'avec un prince, c'est toujours mieux, essaie de résoudre des crimes surnaturels pour le docteur Watson et Sherlock Holmes. Donc moi, j'ai bien aimé cette série, l'ambiance victorienne et l'atmosphère sombre et un peu horrifique sur les bords. Vraiment, il y a des fois où j'ai eu un petit peu peur. C'était vraiment sympa, il y avait un côté surnaturel qui était bien amené, les protagonistes étaient attachants. La saison était découpée en épisodes, et dans chaque épisode, les irréguliers, du coup, devaient résoudre un crime, et après, en fait, chaque épisode, c'était un parti d'un puzzle, si je pouvais dire, qui amenait à la résolution de l'intrigue qui était sur un fil rouge. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas une perso de Stranger Things dans... Enfin, une actrice, du coup.
Ça me dit rien.
C'est vrai ? C'était une impression que j'avais eue en voyant la vignette.
Non, ça me dit rien. Okay. Donc, c'était vraiment une série sympa, et la résolution de cette saison 1 était très bien, non ? Enfin, et on aurait pu penser à une saison 2. Moi, j'y pensais, j'ai cru. Mais non, parce qu'en fait, j'ai appris... là, on a appris ce mois-ci que Netflix avait annulé la série. Donc voilà, pas de suite. C'est merci triste. Netflix. Goodbye, les irréguliers de Baker Street.
Bah oui, bah voilà. Bah, il faut bien financer les rachats de séries nulles. J'arrête. On va écouter maintenant une bande-annonce pour le sujet du mois de Mathilde.
Il était une fois des méchants qui dirigeaient le monde. Ils étaient gourmands jusqu'à l'autodestruction. Alors Mère Nature a rendu tout le monde malade.
Excusez-moi, est-ce que vous êtes médecin ?
C'est alors que ton espèce a vu le jour. Un miracle. On vous a appelé les hybrides. Ton boulot à toi, c'est de vivre ta vie. Mais il y a encore des méchants de l'autre côté de la clôture. Si j'entends une voix...
Je pars en courant.
Et si je vois un humain...
Je vais me cacher.
Nous avons des raisons de croire que vous hébergez un hybride ici.
Montre-toi, sale monstre.
Merci. C'est où le Colorado ?
Pourquoi le Colorado ?
On m'a dit qu'il existait un endroit sûr pour les enfants comme moi.
Si tu vas là-bas tout seul, ils cloueront ta tête à un mur.
Je suis pas tout seul, je suis avec toi.
Les gars comme moi sont mauvais pour les gosses comme toi.
Comment tu le sais ? La plupart des gens détestent les enfants comme moi.
Rusty, les derniers hommes se sont donnés pour unique mission d'éliminer les hybrides. Alors que la nôtre est de les protéger.
Ce nouveau monde ne repose que sur la survie, quel qu'en soit le prix.
Qu'est-ce que vous faites avec lui ?
J'ai fait ce que je devais faire pour survivre.
Est-ce qu'il y a d'autres enfants comme moi ?
Je veux les trouver.
Ce gamin transpire l'espoir par tous les pores.
Alors, on parle de Sweet Tooth, qui est sorti sur Netflix ce mois-ci.
Le mois dernier, enfin, en juin, ce mois-ci.
Oui, ce mois-ci, c'est ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit. Avec 8 épisodes d'environ 45 minutes. Le petit synopsis nous dit: dans un futur post-apocalyptique, les humains sont décimés par un mystérieux virus et une nouvelle race, non pas le Covid, le fléau, et une nouvelle race d'hybrides, mi-humains, mi-animaux, émerge. Dans ce contexte, un père, son fils mutant et son fils mutant survivent paisiblement cachés pendant 10 ans, loin du chaos provoqué par l'effondrement de la société. Alors, cette série, c'est une adaptation du comics du même nom, créé par Jeff Lemire, désolé. Le projet a d'abord été confié à Ulule en 2018.
C'est Ulule toujours.
C'est toujours Ulule. Moi, je dirais toujours Ulule. En 2018. Et Netflix l'a récupéré en 2020. Voilà. C'est la petite anecdote. C'est sympa, hein. D'ailleurs, j'ai vu que l'acteur d'Iron Man devait travailler sur ce projet.
Mais
alors.
Il produit. Il est dans le générique, c'était marqué. Produit ou producteur exécutif, je sais plus quoi. Il y avait Robert Downey Jr. dans le générique, j'ai vu.
Bah voilà. Iron Man, il sait plus quoi faire.
Oh, oui. Bye.
Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Emilien? T'as regardé cette série
avec moi. J'ai beaucoup aimé. C'est une sorte de conte post-apocalyptique. J'ai pas trouvé comment le décrire mieux. Enfin, c'est presque Narnia qui rencontre Walking Dead un peu dans un. Non, oui. Il n'y a pas de zombies. Mais voilà, en tout cas, c'était très joli, c'était très bien fait, c'est intelligent parce que ça raconte plein de trucs intelligents, ça a des vrais messages, c'est abouti, c'est ambitieux, donc ça fait plaisir. L'univers présenté est très riche et Christian Convery. Le petit garçon qui joue Gus est très mignon et très sympathique, vraiment, il a une tête adorable et colle parfaitement. Il est beaucoup plus mignon que le personnage du comics. Hein.
Oui, on va en parler.
Et enfin voilà, c'est une bonne surprise et une bonne série Netflix, donc bravo Netflix.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je trouve que au niveau visuel, les lieux de tournage étaient vraiment très beaux. En même temps, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande.
Ah ouais?
Ouais.
Alors que ça se passe aux États-Unis.
Ouais, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, donc en même temps, bah voilà, ça, ce qui permet d'avoir des paysages vraiment cool. Et au niveau même de la photographie, j'ai trouvé ça joli. Genre même les enfants mutants, comme ils disent, les petits mutants, sont très bien faits. À part Madame Bobby qui m'a clairement fait peur.
Je crois que Bobby traumatise Internet.
Je crois que Bobby m'a fait peur, mais c'est pas de sa faute.
C'est un enfant araignée ou un...
C'est un écureuil, je crois, ou un petit ours.
C'est un castor.
Un castor.
Je crois que c'est un castor.
Tape Bobby Sweet Tooth sur son ordinateur et tu le trouveras. J'aime beaucoup quand il a des lunettes de soleil. Et un petit bob sur sa tête.
Bobby?
Ouais.
Ah oui.
Voilà. Continuons. Les acteurs sont bons. Surtout Christian Convery, comme tu disais, qui joue Gust. Il est très mignon. J'ai l'impression qu'il a peut-être un air un peu trop enfantin. Pour son âge. Mais après, comme il a été élevé d'une façon un peu particulière, mais moi j'avais l'impression qu'il faisait plus vieux. Mais après, mais comme il a été élevé tout seul et tout...
Comment ce castor a pu vous...
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Mais il est mignon, je sais pas.
Que il est mignon, creepy quand même.
Non, mais en fait, ça s'arrange, mais la première fois qu'on le voit, on a peur.
Parce qu'en plus, il apparaît dans des buissons, enfin, c'est chelou.
Ouais, et la première fois qu'on le voit, il apparaît comme ça.
Ah, ok, oui, d'accord.
Et puis après, ça s'arrange. Du coup, tu disais que Gust était vachement plus mignon dans la série que dans le comics, et c'est vrai parce qu'en final, le comics est beaucoup plus sombre et violent. Et en fait, quand on a parlé de l'adaptation en série, moi j'avais peur que la série tombe un peu dans ce cliché de c'est une dystopie, enfin c'est pas vraiment une dystopie, mais c'est une série post-apocalyptique. On va aller dans quelque chose de très noir, très sombre, et en mode, on met plein de trucs violents, de la violence pour la violence, c'est pas grave, c'est post-apo. C'est un peu ce qu'on avait vu avec la série de Netflix sur le cube, où on avait un peu de la violence gratos, quoi. Donc, ils auraient pu aller dans ça, parce qu'au final, le comic, c'est vraiment sombre à la base. Et puis, au final, pas du tout. Ils ont fait quelque chose de plus subtil. Et il y a de la violence, mais elle est plus psychologique, en fait. On nous montre pas des vraiment...
Il y a pas de violence visuelle.
Ouais,
déjà.
Voilà. Ils nous montrent pas les choses visuellement. Ou alors, on est de loin et on voit pas, par exemple... quand il y a un moment où ils font brûler quelqu'un qui est malade dans une maison, Oui, parce qu'il y a un virus, voilà. Et bah, ils nous montrent pas la personne qui brûle, ils nous montrent la maison de l'extérieur qui brûle, quoi.
Enfin, pas les chairs qui fondent. Et...
Voilà. Quand il y a des combats aussi, on a des points de vue lointains. Enfin, on voit pas les choses de près, on va pas nous montrer du sang qui gicle ou des choses comme ça. Mmh. Ils essaient de faire quelque chose d'un peu moins gore. Et moi, je trouvais ça bien. Au niveau du scénario, bah, l'histoire tient la route. En même temps, c'est une adaptation, donc ils avaient qu'à reprendre l'histoire de base. Malgré ça, moi, j'ai trouvé qu'il y avait parfois des longueurs. Par exemple, le périple de Gus et de Jeppard, qui s'appelle Jeppard.
Gros balèze.
Ouais, gros balèze, sinon on peut l'appeler, mais c'est comme ça que Gus l'appelle. Et j'ai trouvé que c'était parfois long et redondant. Enfin, j'avais l'impression de, des fois, on aurait pu passer d'un épisode à un autre et ça aurait pu être la même chose.
Tant qu'ils sont que tous les deux, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu longuet.
Ouais.
Pourtant, sur 8 épisodes, on pourrait penser que ça devrait s'enchaîner. C'est pas beaucoup, 8.
Bah, pourtant, non. Et sinon, il y a aussi toutes les parties où on suit le docteur Singh. J'ai trouvé ça clair. Enfin, j'ai trouvé que pour moi, c'était les parties les moins intéressantes. Et surtout que je trouve que sa femme est vraiment une personne horrible.
Oui.
Elle veut obliger son mari à tuer des enfants pour rester en vie. Au niveau de l'éthique, zéro, quoi. Alors que son mari, il est médecin, donc normalement, il est pas censé faire ça et tuer des gens. Enfin, c'est vraiment une très très mauvaise personne. Et moi, je l'ai pas du tout aimé. Et on essaye, pourtant, on passe beaucoup de temps avec eux. Et j'ai pas compris vraiment pourquoi, à part nous montrer que c'était une mauvaise personne et que lui, il essayait de combattre cette noirceur, mais que...
En fait, ça fait très exposition du personnage pendant toute la saison. Et dans la saison 2, il sera plus développé et il fera des choix, il fera des choses. Ça donne un peu ce sentiment. Plutôt,
une saison 2, du coup.
Évidemment, la série laisse présager une suite. Il y a pas de... Enfin, je crois pas, à ma connaissance, que Netflix ait fait d'annonce pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, ce personnage-là, au lieu de l'introduire peut-être un peu artificiellement ou peut-être de manière un peu brutale dans la saison 2, ils ont préféré le présenter dès maintenant ou les présenter dès maintenant et leur faire faire des trucs après.
C'est ça. Après, la série était quand même bien et heureusement, je trouve que les deux derniers épisodes rattrapent l'attente et les longueurs qu'on a pu voir sur ceux d'avant. Et ça apporte surtout des réponses sur ce qui a causé le grand effondrement, la naissance de Gus, des questionnements qu'on avait depuis le début et auxquels on n'avait aucune réponse, que tous les personnages ont essayé d'éluder la question. Ils disaient « ça s'est produit, c'est comme ça », comme si les choses étaient normales pour eux maintenant. Après, j'ai trouvé quand même que sa saison 1, c'était une introduction dans l'univers. On introduit les différents protagonistes et ils réalisent un voyage initiatique avant que les vraies péripéties de leur histoire commencent. Là, on a suivi Gus, on a suivi Grand Balèze et on a aussi rencontré Ours. Ils se sont devenus amis, ils ont fait des choix. Mais c'était vraiment comme un voyage initiatique au final. Leur histoire n'a pas vraiment commencé. Elle commence à la fin de la saison 1 et on nous laisse là-dessus en fait. Et c'est quelque chose de récurrent chez Netflix et c'est très frustrant, je trouve.
Ils ont fait nettement pire.
Oui, ils ont fait nettement pire, mais moi, je retrouve ce côté frustrant. Mais après, c'est des choses qu'on retrouve dans les comics, qui peut arriver aussi dans un comics. Tu lis le premier tome et t'es un peu frustré parce qu'on te donne toutes les clés pour l'histoire, mais en fait, elle commence pas vraiment. Ça peut être un tome introductif, donc voilà. Après, est-ce que les gens ont assez accroché pour regarder? C'est ça la question, parce que faire mettre des budgets et faire une saison 1 comme ça, ça peut faire que les gens... ils se disent, il n'y a pas assez d'action ou il n'y a pas assez de choses à regarder et ça nous plaît pas. Enfin, on verra. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de saison 2 qui a été annoncée, mais s'il y a une saison 2, je pense que ça sera plus mouvementé et il y aura sûrement des rebondissements et tout ça. Après, c'est si Netflix tue pas le projet dans l'œuf, hein, comme d'habitude, et donne une chance à cette série. Ça t'a donné envie de regarder, Daniel ?
Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas tous des prénoms? Pourquoi le gamin il a un prénom et les autres c'est gros balèze?
Non, il s'appelle Jeppard, mais j'arrive pas à le dire. Mais en fait, il l'appelle gros balèze parce que par exemple,
il est gros.
Il l'appelle, ouais, il l'appelle pas Gus. La première fois, il l'appelle pas Gus. Il l'appelle gueule en sucre ou quelque chose comme ça. En fait, Sweet Tooth, c'est le nom du comics et de la série, mais c'est aussi le nom qu'il donne à Gus en VO, en fait, parce que nous, on l'a gardé en VF aussi. Donc, ce qui crée un peu le...
Okidoki.
Voilà. Et oui, il y a un personnage qui s'appelle Ours. Mais c'est pas son vrai prénom non plus, mais elle s'appelle Ours.
Non, c'est pas un ours.
Non, c'est pas un ours. C'est une humaine qui se fait appeler Ours, tu verras.
Voilà, voilà pour cette jolie série. On va passer maintenant à Agent Carter. Mathilde et moi avons regardé la saison 2 sur Disney+. Une saison qui compte 10 épisodes de 45 minutes. C'était sorti entre 2016 et 2017. Et cette fois, l'agent Peggy Carter est assigné à Los Angeles pour une nouvelle mission un peu paranormale qui parle de dimension extra-dimensionnelle, ce qui ne veut rien dire ce que je dis, qu'on appelle la matière zéro. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mathilde ? Ah, Damien voulait intervenir.
Non, mais parce que t'as dit dimension extra-dimensionnelle.
Oui, voilà, c'est là que j'ai dit que ça voulait rien
d'accord,
dire.
D'accord,
ok. J'ai trouvé que cette saison 2 était beaucoup moins bien par rapport à la première. L'intrigue autour de la matière zéro, moi, ça m'a vraiment pas passionné. J'ai toujours pas compris ce que c'était, pourquoi, comment.
C'est peut-être une introduction pour en reparler.
Malheureusement, la série 3. A été annulée, donc il y aura pas de saison 3.
Pas de...
Voilà. Mais voilà, ça m'a pas passionné. Après, j'étais super contente de retrouver Souza. Moi, c'est « Ouais, Souza !» Et de découvrir Los Angeles, ça mettait un peu plus de couleurs, des tenues un peu plus cool au niveau des costumes. Moi, je suis toujours fan de l'univers et des costumes, hein, c'est trop bien. Après, moi, j'ai vraiment pas compris pourquoi l'agent Carter jouait à les midinettes avec le docteur Wicks pendant la moitié ou presque toute la série. J'étais genre, c'est pas du tout son... Enfin, je sais pas, elle a jamais fait ça avec personne. Déjà, dans Captain America, elle était pas comme ça. Elle était pas comme ça dans
et
sa saison 1.
Et pourtant, c'est Captain America.
Et oui, et pourtant, c'est Captain America. Et là, elle fait les midinettes avec un mec, mais il a rien de particulier, mais trop bizarre. Non, vraiment bizarre.
Et c'est une intro pour les films d'après.
Ça n'a aucun sens. Et toi, du coup?
Moi, je suis à peu près d'accord. J'ai moins bien aimé. L'intrigue et l'antagoniste principal ne sont pas très, très alléchants, très intéressants. Mais de la même manière, j'ai bien aimé Los Angeles. Jarvis devient un peu le rigolo de l'équipe, mais c'est... Il est très drôle et l'acteur l'interprète très bien. Et Souza aussi est super cool. Et Hayley Atwell aussi, l'actrice de Peggy Carter, est super bien. Elle maîtrise son rôle. Enfin, c'est très dommage. J'étais très déçu à l'époque que cette série soit annulée. Mais bon, on s'y est fait. Et puis on a eu la fin de son histoire avec Avengers Endgame. Donc du coup, on est triste, mais pas trop.
On est à quelle époque, là, à peu près?
Là, on est vraiment dans l'après-guerre, donc du coup, c'est...
50, 60...
Ah non, même pas, on est en 45, 46.
Ah oui, ok,
non, c'est peut-être, ouais, entre 46 et 47, quoi.
D'accord.
Parce que, enfin, oui, c'est ça, la saison 1 se passe vraiment en 45, quelques mois après la guerre, et la saison 2, on sait pas trop, mais c'est très très rapidement après. Voilà. Mathilde, on va te donner la parole pour une série que tu as regardée... de fond en comble.
Oui, j'ai débuté et je ne me suis plus arrêtée jusqu'à l'avoir terminée. Non, je l'ai pas terminée. Enfin, elle est pas terminée. J'ai regardé On My Blog sur Netflix, donc la saison 1, 2 et 3 qui a été créée en 2018 et donc qui se poursuit parce que elle est pas encore finie. Sur Netflix, ce qui fait au total 28 épisodes. D'une trentaine de minutes environ, donc c'est pas non plus...
C'est pas très très long.
C'est pas... Je crois que c'est ça. C'est pas non plus extraordinaire. Du coup, On My Block se passe dans un quartier difficile de Los Angeles où on suit quatre amis, des ados futés et drôles, qui sont mis à l'épreuve quand ils rentrent au lycée. Quoi ?
C'est drôle, des ados futés et drôles.
Ils sont futés et drôles.
C'est pas ça
c'est
qu'il
vrai.
Écrit.
Non, c'est, je sais pas pourquoi il est là, j'en avais pas spécialement besoin. Mais...
Ça se passe aussi à Los Angeles.
Dans un quartier difficile, cette
Dans un quartier difficile.
Parce que Peggy Carter était quand même dans le quartier bourgeois de Los Angeles. À Hollywood en plus, voilà.
Ah, mais laissez-moi terminer, voyons. Vous ne savez pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? On My Block fait partie des séries ados, si je pouvais, que j'avais pas encore regardées. Donc j'étais contente de me lancer dans cette aventure. La saison 1 est une bonne introduction. Pour une fois, c'est une bonne introduction. Mais il se passe des trucs, les gars, dans cette saison 1, pas comme d'autres.
Donc c'est pas juste une introduction.
Ce n'est pas juste une introduction, mais elle permet de bien intégrer les protagonistes et de se faire une idée de leur vie. Par exemple, quand ils entendent des coups de feu, ils rigolent en devinant le calibre qui a tiré.
Je fais ça tous les matins en 4 heures.
Oui, ça donne une idée du quartier dans lequel ils vivent tous.
Une prison.
Non, c'est pas une prison. Ils vivent entourés de gangs. qui se tire dessus tout le temps.
Mais il joue à GTA, en fait.
C'est une série qui entre, c'est une série entre humour et final douloureux. Je dis douloureux car, en gros, on passe tout le temps des rires aux larmes dans cette série. Et c'est ça qui la rend vraiment incroyable et qui m'a convaincue, bien évidemment, de dévorer les deux saisons suivantes. On My Block est une très bonne série young adult, car au lieu de se pencher sur la jeunesse dorée de Los Angeles ou des New Yorkais, comme genre Gossip Girl, etc., etc., du vu et du revu, elle fait le choix de parler de la jeunesse d'un quartier difficile où les gangs font la loi. Elle aborde beaucoup de thématiques, le deuil, la vie dans un gang, le fait d'avoir le choix ou non, le fait de vivre dans la peur, l'amour et les amitiés, etc. Elle les aborde parfois avec humour et d'autres avec violence. Nous rappelons que la vie n'est pas toujours un conte de fées. C'est triste. En vrai, cette série, c'est un vrai coup de cœur. Et j'ai eu également un énorme coup de cœur pour le personnage de Jasmine, qui, au début de la série, on la prend vraiment pour une grosse folle. Mais vraiment, elle fait vraiment peur. Je n'ai pas envie de l'avoir comme amie. Mais au fur et à mesure, elle se révèle vraiment. Et dans la saison 2, elle a une très belle conversation avec Ruby sur le fait de rester soi-même et que c'est pas grave si les autres ne l'acceptent pas, car ça veut juste dire qu'elle doit s'aimer encore plus. Et je trouve que c'est une super morale. Non ?
Oui, non, j'aime bien. Je valide.
Clairement, Jasmine et Ruby, ils sont trop chouchous ensemble et moi, je les adore. La saison 3 se clôt sur le départ de Monty, donc qui est une autre de nos héroïnes. Ils sont quatre à la base.
Oui, ils sont futés et drôles.
Oui, ils sont futés et drôles et ils sont quatre. Et du coup, Monty part faire ses études. Elle sort de ce quartier, justement, pour faire ses études parce que bah elle trouve que c'est trop dangereux et qu'il y a trop de problèmes à vivre ici, donc elle s'en va. Et à la fin de la saison, du coup, on a un avance rapide qui nous montre ce qui se passe 2 ans plus tard. Nous teasons une saison 4 qui promet et qui sera également la dernière. En tout cas, si vous n'avez pas lancé cette série, foncez parce qu'elle est vraiment trop bien.
Ça a l'air sympa.
On prend note. On va passer à un truc un peu moins bien maintenant sur Prime Video.
On devrait mettre un truc genre tout, genre un
best. Je suis un peu déçu, je voulais le regarder, du coup je suis déçu si vous me dites que c'est pas bien. Pourtant j'aime bien Kim Jemili et Fadili Camara aussi.
Alors si vous n'avez pas deviné, on parle de LOL qui rit sort la saison 1.
C'est pas LOL, le film qui est sorti dans les années
non, 2000. Non,
le film tout nul.
Il y avait de la musique marrante.
Je ne me souviens plus.
Est-ce que vous êtes en train de vous en foutre de LOL qui rit? Moi, ça me dérange pas. Hein. J'ai pas trop aimé. À part Kian Kojandi, c'était pas ouf.
Ah, c'est... Kian Kojandi est incroyable.
Kian Kojandi, c'est le meilleur.
Comment il peut y avoir Kian Kojandi et Gérard Jugnot? Pour moi, c'est un peu antinomique. Bah,
tu serais étonné, mais ça fonctionne.
Non, bah,
on
a l'air un peu déçu, mais c'est parce que ça s'essouffle d'épisode en épisode. Mais tu peux t'arrêter aux 3 premiers épisodes.
C'est
ça suffit, on t'a ta dose, ça c'est bien.
Après je trouve que ça montre le talent de certains. Genre moi, Alexandra Lamy, je l'avais vue en tant qu'actrice, je l'avais jamais vue dans des...
Alexandra Lamy, c'est laquelle des deux?
Est-ce c'est celle qui est dans Un gars, une fille.
OK.
Ah d'accord.
Et ben je l'avais jamais.
C'est son deux sœurs.
Oui, t'as juste dit Alexandra Lamy, c'est laquelle des deux?
Bah peut-être c'était clair.
Il y a qu'un nom là.
Et du coup je l'avais juste en tant qu'actrice, mais en tant qu'humoriste, j'étais pas dedans. Et en fait, elle est incroyable, elle est super forte. D'accord.
On a oublié de vous dire de quoi ça parlait si jamais vous ne connaissez pas, malgré la pub intersidérale qu'il y a eu. C'est une émission, une série émission animée par Philippe Lachaud, en 6 épisodes, donc, où s'affrontent 10 comédiens et humoristes français avec pour seule règle, celui qui rit est éliminé.
Vous voulez pas dire qui étaient les plus nuls, comme ça je regarde pas les épisodes.
Non, je te dirai pas.
On peut faire un classement du plus drôle au moins drôle.
Vas-y.
Et bah,
au moins les 4 premiers, histoire de pas être méchant.
Alexandra Lamy et Kian Kojandi sont les plus drôles.
Ah ouais? Ok.
Hein? Non?
Si.
Mais non, elle était pas en finale avec
Kian
Kojandi.
Ah oui, vous faites les tops de ceux que vous aimez ou du...
Ah, moi je fais un classement de qui j'aime.
Ah oui, d'accord.
Du plus drôle au moins drôle.
Kian Kojandi était le plus drôle pour moi aussi.
Alexandra Lamy était la plus drôle. Après, on va dire, Bérangère Krief était très drôle. Tarek Boudali était très drôle.
Tarek était incroyable.
Tarek Boudali était drôle parce qu'il jouait pas le jeu de faire rire.
Le mec, il était drôle parce qu'il faisait toujours une tête de poisson
perdu
dans la confiance.
Le gars était en AVC pendant toute l'émission. Il veut pas rire, donc il est en concentration.
Ah oui, ok.
Julien Arruti est plutôt marrant. Gérard Jugnot est drôle parce qu'il joue au clown.
Ouais.
Ça marche pas trop. Et puis son départ est.
Après, vous êtes pas, peut-être pas le public de Gérard Jugnot.
Moi, j'aime bien. Il me fait rire. Ouais. Des fois, il a des bonnes sorties, mais.
Moi, j'ai bien rigolé quand je l'ai vu partir et pourquoi il partait. J'ai trouvé que ça collait.
Mais c'est style, ils font du stand-up ou ils font un.
Chacun fait son truc, quoi, du coup.
Ouais, il y a des gens qui font des blagues tout le temps et quand tu rigoles, tu t'en vas.
Ouais, je comprends l'idée, mais je veux dire, ils font juste des blagues ou...
Non, ils ont des temps...
Il y a un conducteur et un truc un peu...
Non, il n'y a pas de conducteur, il y a juste des temps où ils ont le droit d'aller sur scène, par exemple, en plus.
Vraiment, l'émission est construite où ils sont balancés 10 heures ou je sais plus, ou 6 heures, enfin, longtemps dans une pièce, une sorte de grand salon.
Ouais.
Et ils ont chacun un joker où ils montent sur scène, et là, ils ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Et le but, c'est de, pendant ce petit temps-là, de faire rire les autres. Mais même quand ils se côtoient dans le salon, ils doivent faire rire les autres. Okay. Et puis les j'ai oublié Hakim Jemili qui est plutôt marrant, qui a des bonnes sorties, mais qui est pas au top de ce qu'il peut faire d'habitude. Et malheureusement Inès Reg est pas en impro, elle est pas ouf, j'ai trouvé.
C'est toujours la même chose.
Rem Kérissi est en impro pas ouf non plus. Et Fadili Camara, déjà, que je ne connaissais pas, est pas ouf non plus en impro. Enfin voilà, dommage.
Ouais, et moi je voulais aussi revenir sur le fait que, comment dire, quand l'animateur
Philippe Lachaud,
ouais, quand Philippe Lachaud arrête pas de revenir,
oui,
ça coupe. En gros, dès que quelqu'un rigole, il coupe tout, il appuie sur un buzzer, il sort de son truc, il vient dans la salle et il dit ah attendons, on va voir qui a rigolé. Ça coupe tout.
Ça pète la dynamique.
Ouais, toute la dynamique est foutue.
Après, ils sont obligés, sinon.
Ils auraient pu trouver un autre truc, ou alors. Ils le font pas venir, mais ils buzzent et ils le disent à...
Ouais, mais tu vois, si tu gardes la dynamique, il y a sûrement beaucoup plus de chances que tous les autres rigolent et que ça finisse vite.
Bah oui.
Enfin, mais là, ça... Non, je vais rien dire.
En tout cas, c'est amusant, mais ça s'essouffle vite, oui. Et le final, c'est bouclé en 10 minutes. Et vraiment, moi, quand il y a un final où il y a personne qui... qui gagne, ça m'énerve.
Non, mais même sans ça, et après on passe à la suite, parce que ce programme mérite pas autant d'attention. Mais
vous avez quand même trouvé au moins la moitié des gens rigolos, là.
Oui, oui, non, mais les gens sont très bien dedans, mais c'est le programme qui pêche. Mais tu vois, je veux dire, il y a eu 6 épisodes, les 5 premiers sont sortis tout d'un coup, et ils ont teasé la finale, le dernier épisode, enfin la semaine d'après.
Et ils faisaient 20 minutes, même pas, ou 15
c'était,
minutes.
C'était des formats de 25 minutes, ça dure 19 minutes, le dernier épisode. Mmh. Et dans 19 minutes, vraiment, t'as la moitié, c'est le débriefing, la conclusion. Enfin, du coup, nul. C'est voilà.
D'accord.
Si vous refaites cette série, ne gardez pas ce format-là. Sortez
mais
tout
pas,
d'un coup.
Une adaptation d'un.
Oui,
d'un
si,
type
si.
D'émission.
C'est, je crois, ouais, c'est Catch LOL, un truc comme ça. Un peu de tête, la version US.
Ok, ok.
On va maintenant passer à mon sujet du mois. Il s'agit de la... Non, on va écouter la bande-annonce avant que je dise.
Hey mec, c'est toi ?
Bah, il faut croire que oui.
Trop fort ! Tu vas être entraîneur de football. T'es devenu une légende en faisant un choix tellement con. Ils vont te faire la misère !
Une nouvelle nous arrive depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'AFC Richmond a annoncé le nom de son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Théodore D. Ted Lasso.
Vous êtes un Américain qui va entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée.
Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond qu'il mène ou qu'il soit mené.
Ou à égalité.
Oh, vous avez les questions. Vous savez qu'il est
T'as vu ce gars ?
Lui, je pense qu'il vient d'Angleterre.
J'ai raison.
Pays de Galles.
C'est un autre pays ?
Oui et non.
Mais combien y a-t-il de pays dans ce pays ?
4.
Que ça vous plaise ou non, Richmond va changer sa façon de faire à partir de maintenant. C'est l'assaut qui donne la route à suivre.
Hé, hey, c'est dingue, cette voiture a un volant invisible.
Ce que vous faites, c'est irresponsable. Ce club compte beaucoup pour les gens de cette ville.
Ouais, je sais ça, je le sais.
Oh, t'es un phénomène.
Je crois que c'est ça, le vrai défi. Embrasser le changement.
Même équipe.
Faire preuve de courage.
Votre décision de mettre Jimmy sur le banc de touche, c'était courageux.
Attention aux propos tendancieux au travail, boss.
Pour moi, le succès ne dépend pas des victoires ou des défaites. Pour moi, le succès, c'est d'aider ces jeunes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, sur ou en dehors du terrain.
J'ai toujours cru que le thé n'était rien d'autre que de l'eau chaude marron. Eh ben, vous savez quoi ? J'avais raison. C'est immonde. Non, merci.
Bienvenue en Angleterre.
Il s'agit donc de Ted Lasso, une série dispo sur Apple TV+, qui pour l'instant ne compte qu'une saison, de 10 épisodes de 30 minutes. Et ça parle d'un entraîneur de football américain, donc Ted Lasso, qui est recruté pour entraîner l'équipe de football, le foot qu'on connaît nous,
de soccer
comme on dit, outre-Atlantique, du club de l'AFC Richmond. Et bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce sport, et c'est un point de finale de phrase, cependant Ted Lasso tente de combler ses lacunes sportives par son optimisme, sa détermination et des biscuits.
Oh, des biscuits.
Et moi, je peux juste dire d'abord que c'est un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette série et je vais laisser maintenant Mathilde en parler si elle le veut.
Signalons que cette série nous a été recommandée par une vidéo YouTube du Binge Docteur, il me semble.
Je m'attendais limite à du placement de produit. Cette vidéo nous a été recommandée par
Red Shadow Legends.
si, non, mais c'est vrai, sur les meilleures séries de 2020, il me semble, on a regardé.
Oui, c'est là qu'on l'a connu, enfin, qu'on a connu cette série.
Je connaissais pas cette série du tout et c'est lui qui en a parlé et vraiment content d'avoir regardé parce qu'elle est vraiment bien.
Et c'est cool que vous soyez abonné à Apple TV parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver dessus.
Ouais,
ça a
bah
l'air
oui.
Bien.
Et ouais. Sinon, Ted Lasso est sûrement, et certainement, j'en suis persuadée à 200%, un des plus gentils personnages de cette série qui m'est donné de rencontrer. Mmh. À chaque épisode, quelqu'un était méchant avec lui, et moi j'avais envie de le tabasser en lui disant « Arrête, sois gentil avec lui !» C'est comme ça qu'il faut faire, il faut être gentil avec lui. Sinon, il y a d'autres personnages qui étaient très bien. Moi, j'ai adoré le capitaine de l'équipe de Richmond qui s'appelle Rodken, qui est un ours mal léché, si je peux dire. C'est un ours mal élevé. Il est clairement toujours en train de grogner. D'ailleurs, les moments où, genre, quand il est vraiment trop énervé, il arrête de parler, il fait... Il y a plein de moments
oui,
dans la
vrai.
Série où il fait
il grogne.
Ça. Moi, j'en pouvais plus, j'étais clairement en fou rire. Bien évidemment, il y a aussi sa complice, on va dire, Kelly Jones, qui, au début de la série, on pense que c'est la potiche du groupe, qu'elle sert vraiment à rien. Et puis, elle se révèle également au fur et à mesure de la série, et c'est vraiment une fille au grand cœur, elle est super attentionnée, et j'ai trouvé ces personnages vraiment très très cool. Pour conclure, moi je vais faire une toute petite conclusion, hein, parce que c'est pas mon sujet. Moi j'ai adoré cette série, alors que clairement je suis pas passionnée par le foot. Hein, l'actu nous le montre, hein, en ce moment c'est l'euro. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit.
Elle fait comme si elle n'était pas sûre d'elle.
Je suis pas sûre, et clairement moi je ne regarde plus, pas. Enfin, je regardais peut-être un peu...
Plus ? T'as
moi,
jamais
je,
regardé ?
J'ai regardé un match de l'équipe de France.
Est-ce que c'est celui où ils ont perdu ?
Non.
Non, justement j'aurais dû regarder, on aurait peut-être gagné. Superstition.
Je suis un porte-bonheur.
Je suis un porte-bonheur. Non, mais je suis pas vraiment, à part, la dernière fois que j'ai suivi, c'était quand c'était la Coupe du Monde. Parce que là, c'était amusant, fallait fêter ça.
Partir des demi-finales à peu près, tu
vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pourtant, voilà, donc, je ne suis pas passionnée de foot, mais pourtant, j'ai clairement adoré cette série parce que, au final, c'est pas une série qui parle de foot, c'est une série qui parle de gens et de la vie et de plein d'autres choses trop bien.
De gens gentils.
Et c'est pour ça que j'aime cette série et que j'aime Ted Lasso. Voilà.
Et bah, effectivement, je l'avais noté aussi, ça parle pas de foot. Même si au départ, quand tu vois la bande-annonce, tu fais « Oh, ça a l'air bien, ça parle de foot ». Mais en fait, pas du tout. C'est le contexte de la série, mais c'est pas le sujet principal. Il y a un fil rouge du sujet du foot, mais voilà. C'est une série qui parle avant tout de personnages, de l'histoire de personnages, de relations entre eux, d'évolution des personnages. Et heureusement que ça parle pas trop de foot, parce que les scènes de match sont peut-être les points noirs de la série, c'est que c'est pas hyper bien fait. On voit les fonds verts.
Ah bah c'est pour ça que je m'en rends pas compte alors.
Non, on voit les fonds verts, on voit que ce ne sont pas des athlètes, parce qu'il court pas très vite. Tu l'as même remarqué, ça t'a fait oula, il court bizarrement. Enfin oui, oui.
Bah en même temps, si c'était Roy, c'était normal, il était très vieux. Bon.
Oui, mais là c'était le meilleur joueur de la première ligue en principe,
ah,
et
zut.
Il court comme une charrette.
Rempli la charrette.
Oui, rempli. Effectivement, tu l'as dit aussi, Ted Lasso, qui est interprété par Jason Sudeikis. Et c'est un personnage formidable. Il est incroyable. Il est empli de positivité, d'optimisme et de bienveillance. C'est un modèle. On a envie d'être Ted Lasso. Le gars est insubmersible de la négativité.
Et pourtant, les gens sont très méchants avec lui. S'il y a un moment dans la série où tu vois qu'il s'effondre.
Et ça, c'est bien parce que la série le nuance un peu où, oui, il a des coups de mou. Mais alors un truc là-dessus que j'aime beaucoup, c'est que il n'en fait jamais subir les autres, jamais. Ou alors une fois ça arrive et tout de suite il s'excuse, il dit j'ai pas à te faire subir mes problèmes, tout ce qui me touche. Et ça c'est des choses que moi c'est des valeurs que j'aime beaucoup. Il prodigue des conseils tout le temps que on pourrait en remplir un recueil de citations positives. C'est ouf. Et là, Damien, tu vas pouvoir écouter.
Non, mais pas écouter.
Tu écoutes pas depuis tout à l'heure.
C'est que il me fait penser à un Michael Scott de The Office dans ses meilleurs jours.
Dans les très bons jours.
T'enlèves toutes les trucs problématiques.
Le racisme. Voilà.
T'enlèves tous les problèmes sexisme. De Michael Scott. Tu gardes que le bon côté. Et ben voilà, ta tête la sauce. C'est un gars positif.
Et gentil.
Un personnage naïf et qui parvient à rassembler autour de lui par sa bonne humeur. Tu l'as dit aussi, Mathilde, les personnages principaux sont bien développés. Chacun a un background, une cohérence, une évolution. Excepté peut-être Coach, l'adjoint de Ted Lasso qui...
Qui n'a même pas de nom.
Qui a pas même... Bah,
si, il a un nom. Il s'appelle Bird, c'est un ours.
Je me rappelle même plus, tu vois.
Si, c'est l'ours.
Mais à part qu'il joue aux échecs.
Mais je pense que c'est fait exprès parce que. Je pense que c'est fait exprès parce que justement, c'est un peu le perso un peu chelou parce que, je sais pas, il était entraîneur avec Ted de football américain, il y connaissait rien, et puis quand il arrive là, il arrive à mettre en place des trucs de football, il sait tout sur les joueurs. Enfin, ils essaient de garder un peu de mystère parce que sinon, ce serait trop compliqué, je pense, pour expliquer sa personnalité. À part que c'est un espèce de fou des échecs, mais fou en mode... je pense que les échecs, pour lui, c'est un côté un peu pervers, tu vois.
Ah, mais à un moment, il a une relation avec une autre joueuse d'échecs.
Avec la rousse...
Non, pervers...
En gros, il y a une scène où il joue aux échecs avec une autre joueuse d'échecs. Enfin, tu sens qu'ils flirtent entre eux, peut-être même un peu plus, tu vois, qu'ils sont une sorte de petit couple naissant. Et ils font une partie, et lui, tu sens qu'il y prend presque un plaisir sexuel à faire cette partie, alors qu'elle, elle joue une partie, elle s'amuse. Mmh. Mais lui, il est... Oh, voilà.
Ça peut être un peu gênant.
C'est très gênant. Y a beaucoup de blagues dans cette série qui jouent sur les relations, voire la rivalité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc du coup, nous, on doit rater un peu de blagues, parce que vraiment, dans l'abondance, on entendait la blague sur le thé. Mmh. Et ça révèle un peu le côté méprisant que les Américains peuvent avoir envers les Anglais.
Ouais, mais je trouve que c'est inversé. Là, on a vraiment là. Moi, je trouve que dans cette série, aussi. On voit vraiment genre le mépris que les Anglais ont aussi pour les Américains, quelque chose qu'on voit pas habituellement. Mais Ted Lasso, il s'en prend plein la tronche tout le temps parce que c'est un Américain et en mode c'est un gros plouc quoi.
Parce qu'en plus, c'est un Texan, je crois, Ted Lasso.
Ouais, c'est ça.
En plus,
combo.
Tout ça pour dire que Ted Lasso est une vraie jolie série feel good, tendre, positive et intelligente. Je vous la conseille, Damien, je te la conseille aussi. Et bonne nouvelle, la saison 2 arrive dès le mois de juillet, le 23 exactement. Elle comptera 12 épisodes, donc un peu plus que la saison 1. Je connais pas le rythme, je pense que c'est à partir du 23 juillet et que après ce sera un par semaine. On vous en reparlera très certainement dans les mois qui viennent. J'ai tout dit ?
J'ai tout dit.
On va maintenant passer à une série qui ressurgit d'outre-tombe.
C'est vrai qu'on en avait déjà parlé.
Non, mais c'est incroyable. La revoici, la revoilà. Mais c'est le final. Nous n'en entendrons plus jamais parler, j'espère, à moins que je me refasse les premières saisons.
Sauf quand il y aura le Legacy.
Oh, non, arrêtons là. Legacy, c'est le nom d'une série aussi, tu sais.
Bah voilà.
Alors, nous parlons évidemment... Non, vous savez pas. Nous parlons de la série Les 100, qui se dit en anglais...
The Hundred.
Oui.
Ou The 100. Il y a des, ouais, les citoyens du monde qui mélangent, disent The 100.
Moi, j'adore dire The 100, mais je me fais tellement juger que je me suis dit que j'allais pas le dire dans ce micro. Et voilà. Et
ça dans ce micro.
Ça me prend.
Dans celui-là, ça va.
Je n'allais pas vous faire ça aux oreilles. Donc, je me suis abstenue. Donc, nous parlons de la saison 7, qui comptait 16 épisodes, qui est sortie, alors...
En 2019, c'est écrit.
En 2019. Non, mais la saison 1 est sortie en 2019. Non,
ouah, ça veut dire qu'ils ont été très vite.
La saison 7 est sortie en 2019.
La saison, oui.
Oui, mais elle est sortie sur Netflix il n'y a pas très longtemps, donc je pense que c'est juste que Netflix était à la bourre, comme d'hab, parce qu'il devait être juste le diffuseur en France. Non, il devait être le diffuseur en France, mais ça a été diffusé ailleurs, aux États-Unis. Je pense que c'est ça.
Je pense que c'est ça aussi.
Alors, bon, allons-y, Franco. J'ai dû regarder deux fois le résumé avant de me rappeler où s'était arrêtée la saison 6. Je me suis donc demandé si j'avais vraiment envie de m'infliger cette 16e saison. Et je me suis dit, oui, Mathilde, c'est la dernière. Il faut savoir comment ça finit. Après tout, t'as regardé les 6 autres, il faut que tu la finisses.
Ils sont dans l'espace, non ?
J'ai fini. Non, bah, non. D'accord. Il y a plein de planètes différentes. Et maintenant, ils voyagent grâce à des portails spatio-temporels. C'est un peu du Star Trek.
Ah ouais ?
Non, c'est pas dans Star Trek. C'est dans c'était quoi le truc là ?
Stargate.
Ouais, Stargate avec les...
avec les...
Ah voilà, c'était Stargate, désolé. Et donc oui, voyage de d'endroit en endroit, c'était très... Mais pourquoi vous écrivez des trucs sur mon...
C'est pas moi.
D'accord. Donc je me suis demandé si j'allais regarder, et donc j'ai finalement regardé cette saison. Autant la saison... Les premières saisons de Descent étaient vraiment bien, il y avait un univers, une cohérence. Autant à partir de la saison 5, je dirais, ça a commencé à dérailler. Mais là, la 7, c'était vraiment beaucoup trop, beaucoup trop. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Du coup, je l'ai terminé. Je vais pas vous dire comment ça se termine, bien évidemment. Et en terminant, je me suis juste dit « Ok ». Et puis, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Voilà. En fait, clairement, je pense que je m'en moquais de savoir comment ça allait finir. Parce que ils ont fait quelque chose d'incroyable dans cette saison 7. Ils ont réussi à tuer deux fois mon personnage principal de la série. Deux fois.
Mais comment on peut tuer quelqu'un deux fois ?
Bah, tu le tues, tu le réanimes et
c'est pas un spoil parce que je dis pas qui c'est finalement. J'allais le dire, je le dirai pas.
C'est vrai.
Voilà, bah vous verrez, ils ont tué deux fois un personnage
préféré.
Oui. Ils ont tué deux fois un personnage principal et à ce moment-là, je me suis dit non, il y a plus rien à récupérer. Plus
alors
rien
si
du
vous
tout.
Si vous suivez depuis longtemps les récapitos, oui. Moyen parce non. Que t'avais pas dit que c'était lui ton perso préféré non. Dans un épisode précédent.
Non.
D'accord.
Non, j'ai jamais parlé de Descent.
Même pas dans la version...
On a fait un épisode où t'en parles.
Non, j'en parle pour annoncer la saison qui va arriver, ou que je dois regarder, mais c'est tout.
Ok. Autant
non, non. Mais voilà, les 100 et moi, c'était fini à partir de là. Et à partir de il y a bien longtemps que c'était fini. Ouais, bah Damien, je sais pas si vous tournez, mais clairement...
Toujours à la saison 2 ou 3.
Et bah, c'était
ils sont toujours sur une planète.
Très bonne saison, les débuts étaient vraiment bien.
C'est un peu psychologique et tout, c'est pas mal.
Non, mais après, ça...
Du coup, j'ai pas très envie de continuer, mais...
Il y a un moment où ça a déraillé, je ne saurais plus trop dire quand. Mais je crois que du moment où... Je sais pas. Il y a un moment où c'était trop. Après, je sais que c'est issu de bouquins. Alors, est-ce que les bouquins sont mieux, moins bien, je ne sais pas. Peut-être que je tenterai un jour. On verra.
Ok. On va enchaîner maintenant avec une autre série Netflix que tu es la seule à avoir regardée, Mathilde.
Oui, toujours moi et encore moi. J'ai regardé la saison 1 d'Afterlife. Donc c'est une série qui est sortie en 2019 qui compte 6 épisodes d'environ 28 minutes. La série, c'est l'histoire de Tony qui jusqu'à maintenant avait une vie parfaite jusqu'au jour où sa femme Lisa décède soudainement d'un cancer. Il décide alors de vivre en pourrissant la vie des autres pour punir le monde qui lui a presque tout pris.
C'est l'anti-Ted Lasso.
Oui, et pourtant c'est une série vraiment presque aussi bien que celle de Ted Lasso.
Oh.
Ouais. C'est vraiment une très très bonne série. Donc là, j'ai regardé la saison 1. Il y a une saison 2 qui est déjà disponible sur Netflix et que je vais regarder ce mois-ci, je pense. Et le personnage de Tony, qui est joué par Ricky Gervais. Alors, vous le connaissez sûrement pas, mais en fait, il incarne David Brent, qui est un peu le rôle de Michael Scott dans la version anglaise de The Office.
D'accord.
Donc, et puis, je sais pas si j'étais claire.
Je crois qu'il fait du stand-up et qu'il
ouais,
est relativement
ouais,
connu.
Ouais, il est plutôt connu. Et donc, bah, déjà, l'acteur est vraiment trop bien. Il joue son rôle à merveille. Et donc, comme je disais, sa femme est morte. Et en fait, il essaie de se remettre du décès de sa femme. Et petit à petit, bah, il essaye. Hein. Il essaye, mais doucement. Et il est vraiment méprisant avec certaines personnes. Enfin, il est pas gentil, il est méchant, il est grognon.
C'est une blague ou pas ?
Il parle du suicide. Non, c'est un peu des deux en fait. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est tellement triste et désespéré que bah il arrive pas à mettre fin à sa vie parce que bah c'est quand même un choix difficile hein, de
voilà. peu.
Et puis même pour sa femme
sauf dans un sens puisque on peut mourir deux fois.
Même pour sa femme, et quand il y pense, il se dit bah elle aimerait pas que ça se passe comme ça et tout ça et il a heureusement, si je peux dire, il a une chienne, une belle, c'est un berger, je crois qu'il a un gros chien. Et en gros, des fois il le dit dans la série que il vit pour son chien en fait. Que quand son chien est là, il y a son père aussi qui est en maison de retraite, mais il dit je vis pour mon chien et mon père, et quand ils seront plus là, bah je verrai ce que je ferai, tu vois. Donc il essaie de se remettre, mais il galère vraiment, et du coup bah il pourrit la vie de tout le monde. Mais dans ces situations, au final, petit à petit, il se rend compte que bah à force de s'en prendre plein la tête par les autres, que c'est pas une solution. Et je pense qu'il fait le deuil en fait de sa femme et de ses émotions négatives. Il arrête d'en vouloir aux gens. Je pense qu'il est vraiment dans une grosse période de il est énervé, il comprend pas pourquoi lui, pourquoi sa femme, pourquoi le monde. Mais c'est très très bien écrit, c'est très très bien fait et ça fonctionne vraiment super bien. On oscille entre rire gêné parce qu'évidemment il fait de l'humour noir à fond quoi, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'humour noir. Des fois on a des rires gênés, on sait pas s'il faut rire ou pas, et des fois il y a des gros fous rires parce que c'est ouf, et puis en même temps des fois il y a des moments très tristes et très sombres et très noirs, et c'est vraiment une très belle série. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter, lui il travaille dans un journal, et un journal local gratuit. Et c'est incroyable, des fois ils vont voir des gens pour des trucs, genre les gens les appellent genre mon fils ressemble à Hitler. Mon bébé
quoi,
ressemble
quoi
à Hitler, tu vois.
Quoi,
parce que les gens ont dessiné une moustache d'Hitler à leur gamin, tu vois. Okay. On en est à là, tu vois. Où il y a un mec il entasse des tonnes de trucs chez lui et demande aux gens au journal de venir voir sa maison parce qu'il y a des tonnes de trucs entassés ou enfin, il y a vraiment des articles incroyables, du coup, qui paraissent dans le journal. Et c'est très amusant. Voilà. Du coup, bah, je vais regarder la saison 2 quand elle est là, bientôt.
Tac au tac. Merci beaucoup. Damien, maintenant, tu vas nous parler d'une série Netflix qui fait grand bruit.
Oui.
Bruit.
Et j'en ai déjà parlé parce que c'est une série qui a été découpée en deux épisodes. C'est Lupin. C'est la série avec Marcy.
Deux saisons?
En deux parties.
Saison 1, partie A.
Ah oui, c'est ça, alinéa les deux épisodes.
J'ai dit deux épisodes.
Ouais.
C'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, une saison, deux parties. Là, c'était la deuxième partie. Et il y a quelques mois, c'était la première partie.
Est-ce que c'est ton sujet du mois?
Alors, c'est mon sujet du mois, mais c'est...
Est-ce que tu veux qu'on lance la bande-annonce?
Oh bah, pourquoi pas?
Bande-annonce.
Ça va trop loin, cette histoire. Pellegrini a kidnappé mon fils. Il va payer pour ça.
Vous le connaissez ?
Bah évidemment. Hassan Diop.
D'après la police, il s'agirait Hassan Diop.
L'homme le plus recherché de France.
Maintenant, on disparaît.
J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai peur que vous perdiez votre temps. Ça ne viendra pas.
On m'a piégé. Et je suis pas coupable.
La fondation a été volée, mais nous refusons d'être intimidés.
Vous pensez que Diop pourrait venir ?
Diop a le sens du spectacle. Et il viendra jusqu'à nous.
On peut pas se planter. Plus de mensonges, plus de conneries.
Bon, c'est quoi le plan maintenant?
Qu'est-ce que tu as voulu me dire?
Ganimard, écoute-moi bien, c'est compris?
Ok, c'est compris.
Essaye l'eau froide. La tache de café sur ton t-shirt, ça part à l'eau froide. Fahrenheit on a summer night, tight spot where bodies rot. Rats drink from water drops in the streets, slugging. Little kids scare cops with red dots. Philosophical gangster with violent priors. Going back like black and white TVs with pliers. Leaning on broke down cars with flat tires. Flash iron on anybody trying on the blocks I'm supplying on. On est prêt? Place à la magie. The thief's team.
Alors du coup, c'est une deuxième partie, donc ça reprend la suite de la partie 1 qui avait fini sur un cliffhanger de fou.
Ouh.
Ouais.
On n'a toujours pas regardé.
Oui, on avait dit qu'on attendait que cette partie 2 sorte.
Je comprends.
Mais maintenant, j'ai plus envie.
Pourquoi?
Bah vas-y, dis pourquoi.
Bah non, mais après, c'est intéressant à regarder. Sauf que du coup, ça reprend la fin de la partie 1 et on passe dans un téléfilm des années 90, genre Rex, chien flic.
Ah ouais, non mais Rex, c'est vraiment... C'est très très lent.
Moi, j'aime
c'est
bien
lent,
regarder un chien.
C'est old school. Ouais, c'est... Il y a un côté un peu bizarre à... On se fout un peu de la campagne alors que, bon, en soi, des gens racistes, il y en a partout. Enfin, il y a vraiment un truc un peu chelou.
Je veux pas de commentaires. Continue.
Mais non, mais bon, il y a plein de trucs qui marchent pas très bien. Mais au moins, au bout d'un moment, on finit par reprendre l'histoire un peu principale. Non, mais toute la partie course-poursuite qui...
Je vois juste un mot dans ce que t'as écrit et je suis...
Je vois aussi la dernière phrase.
Bon, laissez-moi continuer. Donc oui, au bout d'un moment, on reprend l'histoire principale et on retrouve quand même un petit peu d'enjeu. On se retrouve à vouloir suivre l'histoire et à vouloir ce qui se passe, vouloir savoir ce qui se passe. Malgré, beaucoup beaucoup de faux raccords dans cette série. C'est même moi qui suis pas super attentif à ce genre de truc, j'ai fini par me dire bah là la vitre elle était cassée et là non, c'est too much quand même. Et en parlant de trucs too much,
ça n'en finit pas.
Le méchant de l'antagoniste un peu, c'est un méchant mais un méchant qui n'a aucun sens. C'est...
Tu peux faire plus méchant avec le mot que t'as mis.
Oui,
hein.
C'est pas un personnage réel, c'est vraiment. Bon, j'ai mis c'est un nazi, mais en fait c'est
comme
pas vraiment
petit,
un nazi.
Comme le petit enfant. Dans...
Pourquoi?
Comme le petit enfant dans ma série d'avant.
Oui, voilà, c'est ça, c'est un bébé Hitler. Mais là, c'est une vieille personne, et c'est juste que c'est un méchant dans la première partie, on apprend que bon, il est vilain, il fait des trucs pour gagner de l'argent et pour pas se faire prendre. C'est un méchant assez classique, mais au bout d'un moment, là, il devient juste trop, quoi. Il essaie de tuer des enfants, enfin, c'est un peu trop.
C'est l'empereur Palpatine, en fait.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Non, mais il y a un style un peu. Du coup, on le voit en train de faire ses trucs de méchant et on se dit oui, bon,
c'est un
much.
Méchant.
Voilà. Mais bon, du coup, on a quand même une bonne histoire avec un antagoniste qui est un peu too much mais qui est quand même là et avec une fin de saison qui est sympa avec un petit final un peu classe et tout. Donc, ça vaut quand même le coup de la regarder.
D'accord, on regardera.
Il y aura une suite ou pas?
Eh bien, je sais pas.
Bah, non.
Je pense que ça va dépendre des audiences.
Aucune audience.
Après, je sais pas s'ils vont se baser que sur les audiences françaises.
Même aux États-Unis, là, c'est la première partie avait très bien marché.
Ouais.
Meilleure série française aux États-Unis, par exemple.
Donc, il y a peut-être moyen. Hein. En fait, ils ont tellement peu d'accès à des séries françaises que même un truc moyen, ça, ouais. Ils se disent peut-être déjà, ouais, c'est cool.
Si c'est du niveau de Rex, oui, tu m'étonnes. Voilou pour Lupin. Et Damien, tu vas garder la parole puisque tu vas nous parler d'une autre série d'animation cette fois.
Oui, mais en y repensant, est-ce que toi, tu n'en avais pas déjà parlé de cette série d'animation?
J'ai fait des articles sur le blog.
Ok.
Que vous pouvez retrouver, mais c'est bien d'avoir ton avis aussi.
Oui, bah qui va être un peu court parce que je regarde ça le midi. Enfin, j'aime bien, mais
ça s'y prête très bien. Ouais.
Du coup, c'est Star Wars The Clone Wars, c'est la série animée.
Ouais.
De 2008 à 2012, c'est sur des... Alors moi j'ai vu 4 saisons, mais il y en a 7, je crois.
Ouais.
La 7e est sortie il y a pas longtemps. Et c'est des saisons, pour les 4 premières en tout cas, de 22 épisodes de 24 minutes, donc c'est assez dense quand même. Il y a pas mal de petites histoires. Du coup, moi, j'aime bien. Franchement, c'est cool d'avoir plein d'histoires et de contexte sur des choses dont on parle pas beaucoup dans le film. On a un peu plus de profondeur sur les personnages, globalement. Palpatine, on voit ces petits trucs de fourbe au fur et à mesure, on se dit, mais c'est évident. c'est un peu marrant. Et à part quelques longueurs, des fois, sur des passages, sur des personnages qui sont un peu moins intéressants, dans l'ensemble, ça se regarde très bien.
Pour ça manger, c'est vraiment cool. Des points faibles, ouais, c'est que des fois, il y a des arcs.
Mais il y a eu un épisode entier sur, non, il y a eu plusieurs épisodes sur les droïdes qui font des trucs. Tu te dis,
Ouais, où ils sont pas avec ces trois PO et ils échouent sur une planète. Ah, cette partie comme ça. Est affreuse, ouais. Elle est, oh là là.
C'est long.
Mais en plus, là, t'arrives à la saison 4, 5, 6, ça part dans des délires, incroyables avec la force. Enfin, c'est génial.
Okay.
C'est trop, trop bien.
Cool. Et du coup, bah, je continue de regarder la cinquième saison et j'aime bien.
Mais tu fais un peu le travail à l'envers parce que t'as regardé d'abord Star Wars Rebels, maintenant tu regardes The Bad Batch, et là tu regardes Clone Wars.
C'est parce que visuellement j'aimais mieux les autres, et du coup j'ai quand même envie de connaître l'histoire, donc je regarde ceux qui sont...
Mais tu vas voir en plus, dans Clone Wars, il y a une vraie évolution au fil des séries dans la qualité de l'animation. Tu pourras regarder le film aussi, vu que tu fais tout à l'envers, tu pourras regarder le film qui a introduit la série à la fin. Et en parlant de film justement... On a terminé de parler des séries. On peut à présent parler des films. Nous allons commencer les films par un film coréen que Mathilde a regardé.
Oui, c'est un mini coup de cœur. C'est un petit coup de cœur. Ça s'appelle Sweet and Sour. Il y a beaucoup de sweet. Sour. Il y a beaucoup de sweet trucs. Sour. Bon. C'est un film coréen qui est sorti le 4 juin 2021. Il fait 1h42 et il est disponible sur Netflix. Au niveau du style, on pourrait dire que c'est une comédie romantique. Oui, ça se classe comme ça. Le synopsis nous dit « Confronté à des contraintes professionnelles et aux difficultés de la vie, un couple tente de gérer les hauts et les bas d'une relation amoureuse à distance. »
Pourtant, la Corée, c'est pas très grand.
Ouais, mais je crois qu'ils habitent à Séoul, tous les deux, mais du coup, ils habitent loin, et en fait, il y a des gros problèmes d'embouteillage. Vraiment. Genre, je crois que s'ils devaient habiter... En gros, elle doit habiter genre dans la banlieue, et lui, il travaille dans le centre de Séoul. Et s'ils prennent Hidalgo, la voiture, putain. Je crois que ça peut... Résultat, il met genre 1h30, 2h, enfin, voire plus pour y aller, quoi. C'est très, très long. Donc, il est obligé d'habiter loin. Voilà, bah je vous explique, vous me posez des questions.
Bah oui, mais on fait des blagues.
Je regrette
aussi
de t'avoir coupé pour dire ça. Mais...
Ce film est disponible qu'en VO sous-titré français, bien évidemment, sur la plateforme. Je pense que ça peut réduire sa diffusion en France.
Je pense que non.
Ah, c'est sarcastique.
Non, c'était pas sarcastique. Moi, je trouve que c'est plus cool de...
Je pense que
le coréen, c'est rigolo.
Les personnes qui, comme moi, sont habituées à regarder des dramas, peut-être que ça va pas les déranger, mais par exemple, il y a des gens qui regardent rien si c'est sous-titré.
C'est évident qu'un film pas doublé, tu réduis drastiquement sa diffusion de manière populaire, quoi.
Enfin bon. En tout cas, même si c'est en VO et c'est sous-titré et tout ça, regardez-le parce que il est vraiment bien. C'est une comédie romantique très très bien faite et le final est grandiose. Je peux pas trop vous décrire l'histoire ou ce qui se passe parce qu'en fait c'est, si je vous dis un petit truc, je vais vous dévoiler l'intrigue et en fait non, il faut que vous regardiez, il faut que vous voyiez ces moments, ce qui se passe. C'était incroyable. J'ai raconté un peu à Emilien quand je l'avais vu ce qui s'était passé. Je sais pas si tu te rappelles.
Je me rappelle que tu m'as raconté, mais je me rappelle plus ce que tu m'as raconté.
Mais c'était vraiment, je suis arrivée genre en mode, j'étais déprimée à cause d'un truc. J'ai regardé ce film et après j'étais le voir, je fais, non mais attends, il est incroyable ce film. Et j'avais presque oublié pourquoi j'étais déprimée, vous voyez.
Pas mal.
C'est un film feel good qui vous mettrait le sourire. Et moi, à la fin, j'ai quand même bien rigolé. J'ai bien rigolé. Donc, regardez ce film.
Est-ce que si on doit deviner le final, ça peut être, il achète un hélicoptère. Et
non.
Du coup, il peut se déplacer très
vite.
Non.
Mais si tu veux, après le podcast, on en parle et je te dis c'est quoi.
Okay.
Comme ça, ça t'évite de chercher.
Bah, super. Mais ça m'avait déjà donné envie quand tu m'en avais parlé de le regarder.
Ah, bah, on peut le revoir. Moi, je suis prête à le revoir.
Allez, soirée ciné.
Coréen. Et d'ailleurs, il y a une Il y a une des actrices qui joue dans... Ah. Dans le film coréen qui a eu un prix.
Parasite ?
Oui, dans Parasite, qui joue dans ce film.
D'accord. Mmh. Bah.
Voilà.
Bah, gage de qualité.
Et les autres, apparemment, les autres acteurs sont connus en Corée, mais bien évidemment, je j'ai pas beaucoup de culture cinématographique coréenne, donc.
Bah, qu'est-ce que t'as,
toi ? Merci. Bon. Allez. Ferme ta bouche. Continuons.
Continuons avec le dernier film Disney animation. Il s'agit de Raya et le dernier dragon, sorti le 4 juin 2021. Il dure 1h48 et c'est évidemment disponible sur Disney+. Je l'ai vu, Mathilde l'a vu, Damien, tu l'as...
Il y a un peu longtemps, mais
je
l'ai
vu. Ah oui, c'est vrai que tu as des passes droits. Voilà, c'est pour éviter les soucis judiciaires. C'est réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada. Ça parle de... Il y a fort longtemps... Bah, au royaume imaginaire.
Moi, je peux le lire si tu veux.
De Kumandra. Humains et dragons vivant en harmonie. La transition n'est pas propre. Perdu.
Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparut, 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra. Au sein d'un peuple désormais divisé.
C'était mieux dit que moi. Alors, petit rappel, c'est pas le sujet du mois, donc il va falloir qu'on essaye d'être concis, même s'il y a plein de choses à dire sur ce film. Moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est très riche et très beau, d'une part, que la culture du sud-est asiatique, parce que le film est inspiré de cette culture-là, est très respectée. Disney n'a pas toujours réussi à ne pas être très cliché, voire problématique, avec les cultures, enfin, les autres cultures. En revanche, je suis pas fan du dragon excentrique.
Ah, je trouve ça marche bien.
Bah, ouf, j'ai pas trouvé ça foufou comme idée. Ça m'a fait beaucoup penser à Vaiana par moment. Le début, tout le début, je me suis dit, oula, ça part comme Vaiana. Où c'est l'héroïne qui est solitaire, qui part à l'aventure, qui rencontre une divinité, qui est pas ce qu'on croit, qui est un peu un rigolo. Mais heureusement
en plus,
après.
C'est fait du bateau à un moment donné.
Plus ouais.
C'est pas bah, les mêmes personnes. Ça a pas été fait par les mêmes personnes.
Bah c'est Disney les deux.
Oui mais je crois que c'est les gens qu'on.
Je crois aussi.
Qu'on participé à la création de Vaiana.
J'ai pas cette info. Mais c'est possible et du coup ça expliquerait aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon film d'aventure. Je trouve que. Pour un Disney, c'est un très bon film d'aventure. Et c'est une des héroïnes Disney que j'ai préférées de toutes les héroïnes Disney. Alors, j'ai pas vu tous les classiques d'animation, mais même, c'est un des Disney que j'ai le plus apprécié. Et c'est une des héroïnes que j'ai le plus apprécié aussi. Voilà. De mon côté, à vous.
Alors, c'est un Disney sans musique.
Eh ben, ça, non, j'aime bien, moi.
Il y a musique, il y a juste pas de chanson.
Non, mais ça,
c'est pas une comédie musicale.
Oui, voilà, c'est ça que je veux dire.
Bah,
et
ils
c'est
ont
quand
tout
même...
donné dans La Reine des Neiges 2, et puis.
Bah, c'est quand même c'est à noter, c'est rare, si
ah,
je
oui,
peux
oui,
dire.
Oui.
Donc, voilà, il y avait pas de chanson. Moi, j'aime bien les chansons. Bon, après, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Donc, ça m'a un peu manqué. Sinon, l'héroïne, je l'ai beaucoup aimée. Le dragon, bof. Un petit peu trop excentrique à mon goût, mais pourquoi pas. Et j'ai beaucoup aimé le tuk-tuk.
Oui.
Le tuk-tuk, ça, c'était mon truc. Ça, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup kiffé le tuk-tuk. J'ai envie d'avoir un tuk-tuk pour me déplacer, voilà.
C'est quand même très gros.
C'est très gros, mais ça rentre dans le garage.
Oh bah super, c'est un peu triste.
Non, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Après, son évolution est, oui, est entre petit et gigantesque. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé le tuk-tuk. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce film. Moi, il m'a pas tant marqué ça. Je pense que d'ici quelques mois, je l'aurai totalement oublié, malheureusement. Ça sera pas un de mes Disney, ça sera pas un film qui va rester
de... Bah, moi, j'aurais envie de le revoir d'ici quelques mois, justement.
D'accord.
Typiquement le film que j'ai envie de revoir.
Ouais. Dame?
Bah, moi, je suis un peu quelques mois après où je m'en souviens pas tant que ça. Je me souviens que j'ai bien aimé. Moi, j'avais bien aimé le dragon un peu excentrique, je trouvais que c'était un peu rigolo. Ça changeait un peu des dragons sages et tout. Mais...
Pas dans Mulan, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent que, que ce dragon est quasiment un copier-coller de Mushu, quoi.
Ouais, je trouve pas du tout.
En délire dragon excentrique.
Ouais, ouais. Je trouve pas.
Il fait plus de trucs, quand même. Il
ah oui.
Plus de... Ouais. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était sympa. Mais.
Tac. Bah, on a bien aimé quand même. Il y a...
Oui, c'est pas parfait, bien,
mais. C'était un bon divertissement.
On a bien aimé. On reste dans l'animation. Avec un film. Je vais tenter de dire le nom. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Je l'ai dit comme un robot, Pretty comme le robot Google. Le film, partie 1 et 2. Et c'est Mathilde qui l'a regardé.
Et oui, c'est sorti le 3 juin 2021 sur Netflix. C'était deux films d'1h21, une chacun. C'était très long, les gars. Très, très long. Moi, je vous le dis.
Ah,
voilà.
Mais voilà, je me posais la question en voyant partie 1 et 2. Il y a deux films, du coup.
Ouais, en gros, c'est un film coupé en deux et c'est deux films.
C'est Avengers.
Ouais, mais oui. Sauf que la coupure est pas la même. C'est pas... Ça fait vraiment deux épisodes, quoi. Après une éclipse solaire totale, les gardiennes Sailor doivent se réunir pour ramener la lumière sur le monde. Alors, pour moi, Sailor Moon, c'est totalement toute ma jeunesse. Enfin, je sais que je suis sûrement pas assez vieille pour dire ça, mais je regardais plein d'épisodes de Sailor Moon quand j'étais gosse, ce qui est très bizarre. Même si j'ai pas vraiment suivi tous les mangas et tous les animés de façon assidue, parce que j'ai cru voir, en tout cas, qu'il y avait beaucoup des refonds des animés très souvent et tout ça, et même en manga il y a des rééditions, des nouveaux mangas, etc. J'avoue que moi j'adore l'univers et j'ai toujours adoré le fait qu'il y ait des super héroïnes, si je peux dire, qui sauvent le monde et tout ça. Par contre, en regardant ces deux films, je me suis dit que c'était très long, très très long, et du coup je comprenais pas tout, parce que bien évidemment je n'avais pas toutes les clés en main pour comprendre tout ce qui se passait. Donc des fois j'étais genre d'accord.
Donc okay. En gros, si t'es pas un grand fan de Sailor Moon, tu vas te dire ça, parce que toi pourtant t'en as déjà regardé, genre moi j'en ai regardé strictement aucun, ni lu aucun manga. Si je regarde ça, je vais juste rien comprendre.
Bah en fait l'histoire c'est juste il y a des méchants qui arrivent.
Il y a. C'est eux qui font l'éclipse.
Ouais, il y a une éclipse. Il y a des méchants qui arrivent grâce à l'éclipse. Elles sont dans un espèce de vaisseau cirque, donc il y a un cirque qui s'installe dans la ville. Et elles font partie du cirque. Et après, les...
Est-ce que c'est un cirque animalier? J'aime pas trop les...
Non. Enfin, oui, mais les animaux sont aussi des méchants monstres. Enfin, c'est des sorciers.
C'est Tortue Ninja, ça,
ouais. En tout cas, il y a des méchants et les gardiennes doivent se battre contre les méchants. Après, c'est très compliqué comment, pourquoi les armes, dans quel but, elles ont des joyaux et se transforment. Pour pouvoir les utiliser, il y a des kaléoscopes, enfin, elles sont des pouvoirs magiques, enfin, c'est tellement de choses incroyables et magiques. Pas très compréhensible, mais c'était très, très amusant. Moi, j'avais l'impression de retourner en enfance en regardant ces films, mais c'était très, très long. Et le principal, c'est que les gardiennes gagnent toujours à la fin, et c'est bien. Voilà.
Est-ce que c'était un film feel good? Du coup.
Non, pas vraiment.
D'accord.
Fil nostalgie.
Nostalgie.
Mais c'est récent.
Bah oui, c'est sorti là, sortie mondiale. Mondiale le 3 juin.
J'oublie d'aller voir la date.
Le 3 juin, okay, sortie mondiale.
Autant pour moi.
Voilà.
On reste dans l'animation japonaise.
Exact.
Avec un film, Mathilde, que tu as vu toute seule encore.
Oui, ça
s'appelle. Mais moi, je veux le voir.
Eh ben, je vais rien dire beaucoup, alors. Ça veut rien dire. Ça s'appelle Loin de moi, près de toi, qui est sorti le 18 juin 2020.
Une chanson de Grégoire. Pardon.
Il fait 1h44. Elle est disponible sur Netflix. C'est un film d'animation japonaise, comme on l'a dit. Réalisé par Shinichi Sato et Tomataka Shibayama. Ouh, j'arrive mieux pour le deuxième. Hein. Alors, l'histoire suit Mio, surnommée Mouj, une jeune lycéenne amoureuse de son camarade Inode. Elle essaie d'attirer son attention en montrant une forte personnalité, sans succès. Un jour, alors qu'elle marche seule dans une allée vide d'un parc lors d'un festival, elle rencontre un vendeur de masques, Miom Misha, qui lui offre un masque qui lui permet de pouvoir se transformer en chat. Avec cela, elle réussit à s'approcher de Kento, qui la prend d'affection sans pourtant savoir sa vraie identité. Cependant, chaque avantage a un inconvénient. Vient avec son inconvénient. Voilà, c'est un film très mignon qui m'a beaucoup fait penser au Royaume des Chats. Film de 2003 de Hiroyuki Morita. Faut que je me concentre pour pouvoir lire les noms japonais parce que
normalement
sinon...
c'est des syllabes, c'est plus facile.
Ouais, mais c'est pas des syllabes qu'on a l'habitude de voir ensemble. Donc voilà, donc je suis obligée de me concentrer. L'animation est très jolie, le film a parfois des longueurs, ce qui est un peu dommage, des fois on s'ennuie un petit peu, c'est bête. Mais c'est pas très grave, ça passe quoi. C'est un joli film d'animation qui vous fera passer un joli moment. Et au niveau des thèmes, ça aborde les thèmes de la famille, beaucoup. Parce que Mio, elle est issue d'une famille recomposée. Enfin, elle est pas issue d'une famille recomposée, mais ses parents sont divorcés, donc elle a une belle-mère et tout ça. Donc, comment on vit ce genre de situation. Et pour ce qui est de Kento, lui, il veut faire un métier. Donc, il veut faire le même métier que son grand-père, qui est potier. Mais il ose pas s'affirmer, en fait. Il ose jamais s'affirmer. Donc, ça parle aussi de réussir à s'affirmer, d'assumer qui on est et ce qu'on veut dans la vie et ce genre de choses. C'est un très joli film.
Merci, d'accord. C'est l'inverse. On va terminer par un film que on a vu tous les trois, mais cette fois-ci, c'est ce mois-ci plutôt, c'est toi, Damien, qui l'a regardé.
Oui, mais je l'avais déjà vu.
D'accord. Oui, bah je te laisse l'introduire si tu veux.
Alors c'est un petit film un peu de niche que personne n'a vu.
Film indépendant.
Ouais. C'est Black Panther qui est sorti en 2018, qui dure 1h44 et qui est réalisé par Ryan Coogler.
Coogler.
OK. Et qui est sorti sur Disney+. Est sur Disney+, mais qui est sorti au cinéma à l'époque.
Oui.
C'est un Marvel qui est plutôt sympa quand même.
Eh ben, quitte à en choquer plus d'un, c'est un des Marvel que j'aime le moins.
Oh, quoi? Pourtant, il introduit un univers vraiment riche.
Ouais.
J'adore
une
le
culture
personnage.
Incroyable
mais
aussi.
Mais le film m'ennuie un peu.
Mais je trouve que la culture.
Au niveau de sa structure ou? Ouais.
Ce qui se passe m'intéresse, me passionne pas.
Ah ouais. Moi, je trouve que c'est une belle origin story, enfin, si je peux dire, même si c'est pas vraiment une origin story, mais. C'est une belle façon d'introduire un nouveau héros et en plus toute la culture qu'il y a autour du Wakanda,
mais tout est trop
fascinante.
Cool.
Et la musique et les recherches, enfin moi je trouve ça trop bien. Et j'adore l'acteur, j'adore l'acteur.
Moi j'étais un peu déçu du méchant qui devient plus ou moins gentil sur les toutes dernières minutes. Je trouve que ça servait un peu à rien.
C'est Hollywood.
Ouais.
Oui, mais bon, bah, là, voilà.
Mais il y avait un beau coucher de soleil.
C'est vrai.
Le coucher de soleil?
Non, c'est un coucher de soleil.
C'est un coucher.
Mais, enfin, je crois, je sais plus. Mais voilà, pensez pour Chadwick Boseman. Évidemment, il nous manque beaucoup, il nous manquera beaucoup dans le MCU.
Wakanda Forever. D'ailleurs, ils ont commencé le tournage du nouveau film, là, cette semaine.
Ah oui.
Ah d'accord.
J'ai vu
que j'avais regardé. Enfin,
Il faut qu'on fasse la suite.
j'ai vu ça tout à l'heure.
Pour l'instant, on ne sait pas qui prend la relève derrière le masque.
Ouais.
De T'Challa. On ne sait pas. On reste vigilant. On peut passer à la suite maintenant. Le sujet du mois que nous avions choisi le mois dernier, c'est Luca, la dernière production Pixar sortie sur Disney+, le 18 juin de cette année. C'est réalisé par Enrico Casarosa. C'est avec Aloïs Le Labourier-Thieu, Alberto Scorfano et Giulia Marcovaldo. C'est le 24e film de Pixar. Je trouvais que cette anecdote amusante. C'est pas une anecdote, mais je trouvais cette info amusante.
Okay.
C'était, j'ai l'impression de me répéter chaque mois, mais c'était initialement prévu en salle le 23 juin 2021, donc mercredi dernier, où on enregistre. Et finalement, Disney a décidé que la sortie serait un peu plus tôt, mais sur Disney+, dans le monde entier, et en plus, sans le surcoût qu'ils ont pris l'habitude de mettre. Comme pour Raya, par exemple. Et donc, finalement, il a subi le même traitement que Saul. Le résumé, si on veut le faire rapidement, c'est un jeune garçon, Luca, qui vit un été inoubliable, ponctué de délicieuses gelato, de savoureuses pastas et de longues balades en scooter. Luca partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur a Mais pourquoi le résumé est parti?
Mais parce que il est faux.
Non, il est pas faux.
Bah, c'est pas du tout ça l'histoire.
Bah, écoute, c'est le synopsis officiel.
Mais il mange pas de glace, il est sous l'eau. Il mange pas de pâtes, il est sous l'eau. Il fait pas de scooter, il est sous l'eau.
Eh bah, écoute, justement, ce bonheur est menacé par un secret bien gardé. Ce dernier n'est autre qu'un monstre marin venu d'un autre monde, situé juste au-dessous de la surface de l'eau.
Ça, oui.
Et si vous voulez, on peut écouter la bande-annonce.
Ensemble. Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaires.
Solidaires.
Toucher l'amour.
Ça va être le plus bel été de toute notre vie. On ira décrocher des étoiles. On fera le tour du monde. Ce sera fantastique. Condition.
Wow, qu'est-ce que c'était?
Personne ne doit le savoir.
Please don't take my sunshine away.
Dites-moi, les enfants, vous venez d'où exactement?
On peut commencer par parler de l'animation, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord. Après, on pourra parler du scénario, mais qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de l'animation, messieurs, dames?
Bah, moi, je veux bien parler, mais du coup, vu que j'ai mis un truc qui résonne, enfin, qui répond à ce que t'as dit, ce que tu viens de dire...
Ah, si vous voulez, si vous voulez, je commence.
Ça m'embête.
Si vous voulez, je commence. Je vais commencer par une phrase très bateau. C'est Pixar, donc c'est forcément beau. Vous n'y voyez pas de aucune contestation. Malgré que le design des personnages s'éloigne du style habituel de Pixar, j'ai eu l'impression. Par exemple, les petits nérons.
Ouais,
c'est des tout petits nérons rouges.
Moi, je trouve ça cool.
Mais c'est très cool. Mais ça s'éloigne, donc c'est bien. Ils restent pas dans leurs acquis. Je trouve ça bien.
Non, je réfléchissais.
J'ai adoré l'ambiance du film, ce que ça dégageait. Enfin, c'est très, c'est ultra méditerranéen, ultra italien. Enfin, les couleurs aussi. C'est très chaleureux, c'est tout ça. J'ai l'impression que ça se passait dans les années 60, 50, 60.
Ouais, j'aurais dit ça aussi à peu près.
Ouais, bah j'ai
après,
adoré aussi.
Après, les Vespa, je sais pas.
Ouais, mais les Vespa, c'est des vieilles mobilettes.
C'est vrai.
La vie au village aussi est super cool. Enfin, toute l'ambiance était trop cool. Mais par contre, le monde sous-marin, je l'ai trouvé très sous-exploité. C'était pauvre, il se passe pas grand-chose dedans, on voit rien. Si on compare à Nemo, par exemple, dans Nemo, la ville, ça regorge d'idées, ça fourmille dans tous les sens, il se passe plein de trucs.
Ouais.
Et
c'est là où moi je voulais répondre.
Il y a un truc qui m'a éclaté dans le monde sous-marin, c'est les poissons moutons. Je trouve cette idée formidable.
Oui, mais
vu que
c'est la seule idée du monde sous-marin.
Mais je me suis demandé si t'es pas fait exprès qu'il manque des choses, comme tu dis, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de nous dire pendant tout le film, c'est que le monde sous-marin est ennuyeux.
Oui, c'est vrai,
peut-être. Et qu'il ne se passe jamais rien là-bas.
Non, c'est peut-être très
vrai. Du coup, je me suis demandé
vrai.
Si c'était pas pour ça, en gros, nous montrer vraiment le contraste entre sous la mer où il se passe rien et on s'embête, alors qu'à la surface, il y a tellement de choses incroyables, belles et tout ça.
Oui, c'est possible.
Mmh. Ouais, je pense que c'est ça.
Ça se tient.
Merci.
Ça fait très idée de scénariste, en tout cas.
Ouais. Je devrais me reconvertir.
En critique ciné?
En critique
non, scénariste.
Du scénario. Très précis. Mais j'avais mis à peu près la même chose. Que du coup, en fait, s'ils avaient fait un monde sous-marin super riche, enfin, j'avais pas mis ça d'ailleurs, mais comment ça s'intégrerait dans l'histoire où ça le saoule d'être sous l'eau?
Ah oui.
Ça aurait moins de sens de dire je veux partir de là où c'est bien.
Et sinon, moi, j'ai beaucoup aimé les changements, on va dire, les moments où les transitions, ils passent de marin à humain, enfin de monstre marin à humain.
Il y a un petit côté.
Mais j'aime pas le côté monstre marin, en fait. J'aime pas dire que c'est des monstres, ça me débecte.
Créatures marines.
Oui, créatures marines à humain. Et du coup, pour Lucas et Alberto principalement, mais même pour les autres en fait. Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et les moments où ils sont dans l'eau, ils nagent et ils sautent, ils se transforment en humains et ils retournent en eau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop bien.
Il y a un petit côté mystique de X-Men dans la manière dont c'est un peu des écailles qui...
Bah, c'est carrément des écailles. Parce que la première fois, on le voit à peine. Et la deuxième fois, il le regarde et on voit bien les...
C'est vrai. Non, c'est fait partie des jolies choses du film. On peut enchaîner sur le scénario, vu qu'on a plus de choses à dire.
Moi, j'avais mis que j'aimais bien la petite moustache du méchant.
Oui, c'est vrai.
Je trouvais.
C'est plus un duvet qu'une moustache.
C'est assez laid.
Mais je pense que c'est fait exprès. Le truc, c'est un truc qu'on a en commun, les garçons. Quand on grandit, on a un duvet pas très,
pas très
glamour. Alors, pour le scénario, Pixar explore encore une fois un nouvel univers, une nouvelle ambiance, une nouvelle culture. Encore, on se répète entre Disney et Pixar, c'est amusant. Et il semble s'être imprégné d'un véritable village italien. Où vraiment, enfin, ce village presque pourrait exister, j'ai trouvé. Il est pas caricaturalement gênant. Je pense, avec mon regard de français, que ce village peut exister. Avec ses grands-parents qui, enfin, les grands-parents en général, ces vieilles personnes qui restent là, assises devant leur porte de maison et qui font des trucs et qui parlent et qui braillent sur les enfants quand ils courent trop vite. J'y ai cru en tout cas. Et puis voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà?
Ouais. Après, c'est vraiment un petit village, on va dire, qui serait stoppé dans le temps et très idéalisé. Enfin, moi, je le vois vraiment comme un endroit un peu dans, enfin, un village un peu un endroit caché, rêvé, quoi.
Ah, c'est un Pixar. Hein.
C'est oui, pas... c'est ça. C'est pas non. Enfin, c'est du coup, ça se voit. C'est pour ça aussi qu'on voit que ça se passe pas à notre époque du tout, parce que ça n'existerait pas. Cet endroit n'existerait pas à notre époque.
Ah ben non, mais ça, je pense que le film se passe il y a longtemps.
Oui, mais oui. C'est quand même une version idéalisée de la réalité.
Et moi, ça m'a fait penser un peu. Alors là, je sais que vous allez peut-être me sauter dessus.
Parce que je me suis dit, qu'as-tu vu ?
Si, ça me fait penser à certains films Ghibli que j'ai vus de loin, parce que je les ai pas regardés. Mais si dans les, par exemple, l'autre jour, vous aviez regardé, bon, il y a longtemps maintenant, vous aviez regardé Kiki, la petite sorcière. Eh ben, j'y ai vu des dans la colorimétrie, dans un peu la première partie où en fait, on voit juste des enfants faire des trucs. Un peu fait avoir des petites aventures, mais qui sont pas énormes. Enfin, j'y ai vu une sorte de lien.
Mais plus au niveau des thèmes que.
Ouais, des thèmes, ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais parce que. C'est le moins convaincant.
Mais c'est aussi parce que.
Je vais enchaîner, mais.
Non, c'est aussi parce que pour le coup, les enfants, là, c'est des enfants comme n'importe qui sont les personnages principaux. C'est pas comme les autres Pixar. Ou par exemple, je sais pas si tu peux me citer un Pixar là où c'était pareil, ou des enfants qui sont les personnages principaux et un truc très pas sur, enfin c'est surnaturel, il y a du truc fantasy dedans, mais
bah non, il y en a mais pas.
Tu suis les deux petites sœurs et c'est elles les personnages principaux dans Kiki la petite sorcière. Hein?
Pardon, non rien.
Dans Totoro, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, j'ai juste raté le mot le plus important de la phrase.
J'ai dit dans Totoro, tu suis les deux petites sœurs et c'est elles les personnages principaux. Il leur arrive des aventures. Dans Kiki, la petite sorcière, tu suis Kiki et tu suis aussi son amie et les autres qui leur arrivent des aventures. En fait, dans les Ghibli, les enfants sont toujours les personnages principaux de l'histoire.
Et ils sont normaux. Ils ont pas de...
Et voilà. Et ils sont toujours normaux. Et après, il y a de la fantaisie. Il y a des choses qui arrivent autour, comme dans Chihiro, tu vois, où bien évidemment, il y a tout un univers autour. Et là, c'est un peu pareil. C'est des enfants. Il y a un univers autour, mais eux ils le connaissent. Enfin, eux ils le découvrent en fait. Et c'est ça en fait. C'est des récits d'initiation en fait. Je trouve que oui, ça, là-dessus ça se ressemble. Mais je pense que c'est ça qui te donne cette impression que ça ressemble à un Ghibli. Mais au final, ça ressemble à beaucoup d'autres, à beaucoup de films d'animation japonaise. Genre celui que j'ai vu tout à l'heure dont je parlais, c'était pareil. C'était juste t'as deux enfants qui sont dans leur ville et ils vivent leur histoire et les parents sont autour, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, quoi.
Voilà, bah t'as répondu à ma question et t'as étoffé ma réflexion et ma réaction. Vous avez d'autres trucs à dire
Moi, j'étais restée sur le fait que c'est un film initiatique qui montre que l'apprentissage et l'éducation permettent d'ouvrir plein de portes et de savoir plein de choses. Et on a l'impression que Luca, dès qu'il se met à lire un livre ou dès qu'il découvre des choses, il est super content. Au départ, il veut juste partir de sous la mer parce que on s'ennuie. Et puis après, il découvre la terre et il découvre plein de choses. Mais en fait, ça lui suffit pas. Lui, il veut toujours en savoir plus, toujours apprendre plus de choses. Et c'est ça un peu qui l'anime. Et
ça faisait partie des morales que j'ai bien aimées dans le film, que l'éducation, que Lucas, il souhaite à tout prix être éduqué, aller à l'école. Et en fait, ça veut dire que c'est finalement l'unique solution d'être libre, c'est d'être éduqué.
Ouais, parce que ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment le monde est vaste et incroyable et de le comprendre aussi.
Oui,
au départ, quand Alberto, je crois qu'il s'appelle son
copain, c'est Alberto.
Alberto, oui, lui dit que dans le ciel, c'est des petits poissons.
C'est très mignon, ça,
Pour lui, il est content. Ok, c'est des poissons, et qu'en fait, il apprend que c'est pas des poissons, mais que c'est des étoiles, et que les étoiles, c'est des boules de feu. Mais il est fou, quoi, parce qu'il se dit, mais attends, moi, je pensais que mon monde, c'était un petit pois, et en fait, c'est peut-être une pastèque.
Oh.
Et oui, bravo.
Et c'est pas juste des poissons, c'est des anchois.
Oh, désolé, des anchois. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et l'autre chose qu'ils ont mis dans ce film que j'ai beaucoup aimé, c'est juste une petite phrase, c'est le Silencio Bruno. Silencio Bruno. Alors, ça peut vraiment être passé inaperçu, où les gens ils disent, ah, c'est amusant et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une idée incroyable. Parce que quand t'es enfant, ou même quand t'es adulte, tu peux avoir des phobies, tu peux être stressé par plein de choses, et je pense que les enfants sont là-dedans, donc des fois ils ont peur de certaines choses, et au lieu d'en parler, ils vont se bloquer. Et en fait, cette petite phrase, ce petit mantra vraiment tout simple, ça peut changer la vie d'un gamin et un gosse qui va regarder ce film. Quand il va avoir peur, ça se trouve, maintenant, il va se dire, peut-être pas le Silencio Bruno, mais il va peut-être se dire une phrase comme ça qui va se dire...
Ta gueule, Bruno.
Il va se dire dans ma petite voix, dans ma tête, en fait, j'ai peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, en fait. Et je trouve que cette idée, elle est vraiment incroyable, et j'ai vraiment beaucoup aimé qu'il l'intègre à ce film. Et moi, c'est devenu ma nouvelle phrase préférée du moment. Voilà.
Mais c'est ça qui est bien avec les Pixar, c'est qu'ils parviennent à mettre plein de petites morales très justes qui améliorent, enfin qui font qu'on voit le monde un peu autrement et qu'on relativise et tout ça. Enfin, Pixar a cette capacité, même quand ils font des films un peu en deçà, comme ça leur arrive parfois, ils arrivent quand même à intégrer ces idées-là.
Ouais, mais celle-là, franchement, je pense que pour beaucoup, elle est peut-être passée inaperçue. Les gens sont peut-être dire c'est une blague, tu vois, qui se répète pendant tout le film, alors que je pense que ça peut vraiment être plus que ça, et ça peut être vraiment quelque chose d'important pour les enfants. Et même pour les adultes, vu que je suis une grande personne. Et que je trouve ça vraiment bien.
Tu dis rien, Damien.
Oui, je réfléchissais.
J'étais... Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Silencio Bruno, c'est une bonne blague, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Mais non, j'étais d'accord. Mais j'étais d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai bien aimé les parties où il rêve à moitié. Bah, je pense, en fait, il rêve tout court, d'ailleurs.
Comme avec les anchois.
Oui. C'est vrai, c'est le premier. Où il rêve et où il se balade, d'abord avec des anchois et ensuite en Vespa. Dans des trucs un peu pas très réels mais rigolos. et je trouve quand même que la fin elle est un peu gnangnan, mais c'est un Pixar plus pour des enfants que d'autres films d'animation, donc c'est normal, je pense. Mais
moi, elle m'a fait penser à Harry Potter qui allait à l'école des sorciers, quoi.
C'est vrai.
Le train et tout, je me suis dit, ah, en fait, c'est un. Ça serait.
Vivant à Poudlard.
C'est ça. Je me suis dit, mais en fait, ça serait Harry Potter s'il n'était pas atterri chez les Dudley.
C'est vrai.
Parce qu'au final, c'est pas un magicien, mais c'est une créature marine. Enfin, ça fonctionne, hein.
Sauf qu'il n'irait pas à Poudlard, il irait dans le lac noir à côté. Chacun.
Un peu moins sympa.
C'est moins cool.
Moi, quand ils ont fait la fin, du coup, j'ai eu un petit temps où je me suis dit, les villageois, ils sont en train de les manipuler pour mieux les manger.
Moi, j'ai trouvé aussi que les villageois, ils changeaient très très vite d'avis.
Ouais,
ils passaient très vite du « on va les tuer !» Ah, bah non, en fait, c'est nos potes. Donc, ça va.
C'est vrai qu'ils vrillent tous très rapidement.
Après, je pense qu'il y a un peu le fait qu'il est le père de la gamine.
On sent aussi que c'est Julia.
Oui, c'est Julia. Qui leur fait peur.
Il y a un peu de ça, ouais. Du moment où le père dit,
ça va.
Certes, ils sont différents, mais ils méritent d'être respectés, de pas être mangés, tout simplement. Et bah, t'as l'impression que tout le village l'écoute et le craint parce que si quelqu'un s'en prendra à Alberto ou Luca ou les restes de leur famille, ils vont se faire péta.
Ah, j'ai bien aimé aussi les deux petites mamies. Quand je les ai vues au début, je me suis dit, ah, mais c'est obligé que ça soit des poissons. Ouais. Et à la fin, quand il pleut, je me suis dit, ah, j'avais raison.
Moi, j'ai pas vu. Hein.
Moi non plus. Bravo. D'un coup, je fais, oh, bah, dis donc, elles sont poissons.
Mais, c'est pas la grand-mère? Non, c'est
non,
pas
c'est
la grand-mère.
Pas sa grand-mère. Non, mais sa grand-mère, elle dit, mais moi, je vais essayer une fois par semaine.
Mais ça, c'est rigolo, en fait, parce que c'est, on constate vraiment que c'est que les parents qui ont peur.
Mais en plus, du coup, c'est un peu bizarre, on sait pas pourquoi ils sont parano, c'est pas super expliqué. Ben, on dit,
ouais, surtout qu'ils ont même pas l'air d'être déjà venus, parce que quand ils se retrouvent sur la plage, ils se transforment, ils se voient et ils se tapent dessus en mode, qui est-ce?
Ben, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, ils ignorent le monde extérieur, ils le connaissent pas, donc ils le craignent. Et de la même manière, les gens de dehors, les êtres humains, connaissent pas, enfin craignent les créatures marines, donc ils veulent juste les tuer. Donc la morale finale, c'est ça en fait, c'est que c'est un film qui va pas plaire à certains électorats français, puisque ça raconte que l'humanité, elle est jamais aussi belle que quand elle accepte de pas voir les différences et de privilégier ce qui nous rapproche plutôt que de se concentrer que sur nos différences.
Je dirais c'est même vrai. De l'ignorance vient la peur.
Ah bah oui, mais tout à fait. Mais on va s'arrêter là-dessus parce que c'est très vrai. On peut conclure à maintenant. On fera jamais mieux de façon que cette. On va reparler. On va conclure sur le film. Qu'est-ce que vous avez pensé du film en une phrase de conclusion?
Moi, j'ai trouvé ça mieux que Soul.
Indéniablement.
Je l'ai préféré. Après, malheureusement. J'ai beau l'avoir apprécié, je pense que je vais surtout me souvenir du Silencio Bruno. Et bah je sais pas si dans genre 3-4 ans je me dirais ah oui ce Pixar là, tu vois, je sais pas. Mais après je l'ai beaucoup aimé, mais ouais, il y en a peut-être parce que j'ai préféré quand même, genre Coco reste quand même un film que j'ai préféré à celui-ci. Mais après c'est pas très bien de faire des classements non plus, mais sur le coup j'ai passé un très bon moment.
Ouais, mais si on faisait une tier list, c'est vrai que il y a des Pixar qui sont emblématiques, il y a Coco notamment, enfin moi Toy Story c'est ma passion. Il y en a plein d'autres.
C'est fini.
Hein?
C'est fini Toy Story.
C'est fini, mais il faut bien une fin. Il faut bien une fin, mais c'est pas grave. Mais voilà, moi je dirais que moi j'ai trouvé que c'était un film carte postale un peu. Où on dirait presque qu'il y a un gars de chez Pixar qui a dit, alors je reviens de vacances d'Italie. Faut absolument qu'on fasse un film, hein. C'est trop bien, hein. Mais qu'ils avaient pas trop d'idées. Alors ils ont récupéré un scénario de créatures marines, je sais pas quoi. Enfin, je trouve que ça transpire tellement l'Italie que peut-être que ça en oublie de faire la magie un peu des Pixar.
Mais ils sont pas un peu italiens, les gars, qu'on fait ça? Enrico Casarosa.
Ouais. Bah voilà. Enrico, il a dit, je veux faire un film de mon pays.
Putain, il a peut-être voulu retranscrire son enfance.
C'est une créature marine.
Il essaie de se faire accepter.
C'est tout bon? Eh ben, on va passer maintenant aux recommandations et aux nouveautés du mois de juillet. Ouhou.
Alors, en juillet, qu'allons-nous revoir? Qu'allons-nous regarder? Que va-t-il se passer? On continue, parce que voilà, ça continue. Émilien continue.
Moi aussi.
Et Damien continue.
Bah oui.
Star Wars The Bad Batch. Bad Batch?
Bad Batch.
Bad Batch. Je sais pas à quel épisode vous en êtes, mais vous continuez.
Le 9 est sorti. Le 10 sort après-demain.
D'accord, bah on en parlera peut-être en juillet ou peut-être pas, ça dépend.
C'est censé finir le 30 juillet.
Ouais, donc on verra.
Chaud.
Un peu chaud. Sinon, on continue Loki, saison 1. On a l'épisode 4 cette semaine, il me semble.
Le 5 est sorti, il sort aujourd'hui.
C'est pas le 4.
Je crois pas.
D'accord, bah, peut-être le 5. Et ça se terminera le 16 juillet.
Ah, peut-être. Bon.
Je continue également, enfin non, je continue pas, j'attends également la fin de Love Victor. Parce que, bah, j'attends que la saison sorte totalement pour la voir, de toute façon, comme je vous ai dit. Et dans les nouveautés, qu'est-ce qui va arriver en juillet? Le 1er juillet, il y aura Young Royal, la saison 1, donc qui débarque sur Netflix. C'est une série qui parle d'un prince.
Qui est jeune.
Jeune. Et.
C'est le titre, non?
Qui, d'après moi, il me semble, en ayant vu la bonne annonce, qui serait homosexuel. Ça serait ça le et comment du coup il vit son homosexualité en étant faisant partie d'une famille royale et tout ça. Ça a l'air sympa, moi je vais regarder, je pense. Le 7 juillet, on aura Monstres et Compagnie au travail. C'est une série sur l'univers de Monstres et Compagnie, donc série animée qui sortira sur Disney+.
Qu'on attend depuis longtemps.
Ouais,
ça a été annoncé à la sortie de Disney+. Et depuis, silence radio. Et là, bah, ça depuis, revient d'un
et
coup.
Et là, bim, ça arrive soudainement, comme ça, tac, il nous le lance.
Au mieux que ça finisse par sortir.
Toujours le 7 juillet, il y aura...
Nos amis les yinches.
Ça s'appelle Nos amis les chiens. Une série documentaire, donc ça sera la saison 2. Moi, j'avais déjà regardé la saison 1 sur Netflix et j'avais adoré. Et c'était très bien, donc je te la conseille.
Ça parle de quoi?
Des chiens.
Ça parle
des chiens.
De permaculture.
Ah.
Mais arrêtez, oui, ça parle de chiens. Le 9 juillet, il y aura la sortie de Atypical saison 4 sur Netflix. Il me semble que ça sera malheureusement la dernière saison. Donc je vous conseille de la regarder. Moi, j'adore Sam.
Moi, j'ai pas encore regardé, mais ça a l'air tentant.
Ouais, c'est très très
bien. Je regarde de loin, parce que Mathilde regarde, c'est plutôt chouette.
J'adore.
C'est bien fait.
Ça parle, c'est une série qui parle de l'autisme.
Voilà. J'ai compris, de l'autisme.
sinon, le 9 juillet toujours, il y aura Comment je suis devenu un héros.
Alors, c'est pas trop ça le titre.
Comment je suis devenu un héros?
Non, super. C'est Comment je suis devenu super héros.
Bah, excusez-moi, mais c'est pas ce qui a marqué.
C'est...
Je l'ai tapé un peu vite, je suis
d'accord,
navré.
Mais Damien vous en a parlé en début
oui,
de,
c'était
du podcast.
Mon Aipito.
Donc, rappelez-vous-en.
9 juillet, sur Netflix.
Le 15 juillet, il y aura la sortie de la saison 2 de Mes Premières Fois sur Netflix également. Alors, Mes Premières Fois, c'est une série young adult, enfin une série ado, si je peux dire, qui retrace la vie d'une jeune fille d'origine indienne. Donc, elle est d'origine indienne et américaine. Enfin, elle est née aux États-Unis, bien évidemment. Et la saison 1, ça avait été un énorme, énorme coup de cœur pour moi. Donc, je pense même que ça se trouve, je vais me re-regarder vite fait la saison 1 avant de lancer la 2. Mais c'était vraiment énorme coup de cœur de l'année dernière. J'avais surkiffé.
En une après-midi.
J'avais vraiment adoré. Le 21 juillet, il y aura la sortie du film d'animation Chasseur de trolls, Le Réveil des Titans sur Netflix. Donc, pour regarder ce film, il faut être à jour de différentes séries, Damien?
Chasseur de trolls, c'est logique. Et la série avec des extraterrestres. Non, j'ai oublié le nom.
Qui est également
c'est
fait.
Guillermo del Toro aussi.
Voilà, qui est également fait par... Guillermo del Toro. Sinon, il y aura également la même date, le 21 juillet, Les coulisses des attractions. Donc, c'est une série documentaire sur Netflix. Sur Disney Netflix, n'importe quoi. Comment c'est possible?
Sur Disney Netflix.
Sur Disney Plus, voyons, qui parlera des coulisses des attractions des parcs Disney. Donc après, je ne sais pas si ça sera un épisode un parc, un épisode une attraction. On verra. En tout cas, j'espère que ça parlera de plein d'attractions différentes et que ça parlera d'attractions qu'on a en France, comme par exemple Pirates des Caraïbes ou Space Mountain. Peut-être que ça s'appuiera sur les livres des attractions qu'ils ont également sortis au parc. On ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai hâte de regarder tout
emballé.
Ça. Je suis super enthousiaste.
Je pense que t'emballes pas trop pour Pirates des Caraïbes. Vu que c'est quasiment un copier-coller de la version américaine. Par contre, Space Mountain, c'est tout à fait possible parce qu'on a la meilleure version de Space Mountain du monde.
Ou alors...
Alors, il va falloir revoir les bases.
T'as dit quoi?
Tonnerre de Zeus.
Ou alors Big Thunder Mountain.
On a la meilleure version du monde aussi.
Meilleure version du monde.
C'est quoi Big Thunder Mountain?
Oh non, mais...
C'est le
fois,
train
y a
de la mine.
Des fois, il y a des questions qu'il ne faut pas poser ici, dans cet appartement,
okay, ouais,
entre nous. Du coup, le sujet du mois de juin, du mois de mai, du mois de juillet.
On est à jour.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Du mois de juillet, qu'est-ce qui vous dit, les gars ?
Moi, comment je suis, comment je...
Ouais. Comment je suis devenu super-héros?
Bah oui, voilà, voilà.
C'est un film?
C'est un film.
C'est un film, oui.
Français. On n'a pas fait de trucs français.
Eh bah écoutez, on peut partir là-dessus si ça va à tout le monde.
Ça me va. Je risque d'être frustré, contrarié.
Pourquoi?
Parce que je voulais le voir sur grand écran.
Ah, écoutez. Mais oui, tu pourras dire à quel point c'était bien et à quel point ça aurait été encore mieux, mais à quel point c'était bien.
Oui.
Ou alors ce sera à chier.
On sait pas.
Et c'est fini pour nos recommandations du mois de juillet. Je dis bien nos, car évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui sortent, beaucoup d'autres choses que nous ne regardons pas.
Si vous aimez les requins.
Ou que nous, si vous aimez les requins, allez voir sur Disney+. Et il me semble également qu'il y a beaucoup de sorties de Netflix que nous ne suivons pas, dont nous n'avons donc pas parlé. Voilà, voilà.
Ainsi s'achève ce récapito du mois de juin. Normalement, on a réussi à faire plus court. Un peu plus court que le mois dernier où on avait pété tous les records. On vous souhaite un bel été. Pour ceux qui ont la chance d'être déjà en vacances, peut-être même que vous avez écouté cet épisode sur la plage, qui sait, s'il fait beau et que vous avez des écouteurs sur votre téléphone, parce que à peu près tout le monde a. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur nos réseaux Twitter et Instagram et sur notre blog plaid.fr et vous pouvez nous aider à être mieux référencés en nous mettant plein d'étoiles et n'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires. On se retrouve le mois prochain, d'ici là, prenez soin de vous, merci beaucoup à vous deux.
De rien.
De rien. Tu m'as piqué ma réplique.
Et merci évidemment à vous dans les oreilles. Salut.
Bye. Bisous.